Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil à tous, c'est parti. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin. Nous sommes le 13 novembre, le jeudi 13 novembre 2025. C'était donc il y a 10 ans, jour pour jour, les attentats à Paris et à Saint-Denis. 3 commandos islamistes, 132 morts. L'horreur et le choc après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de France. Grande commémoration aujourd'hui. Comment vivre après avoir survécu à un tel attentat? Qu'est-ce qui a changé depuis ce 13 novembre 2015? Faut-il mettre en place une justice restauratrice en matière de terrorisme pour que des victimes et des bourreaux puissent se parler? À 7h40, je pose toutes ces questions à l'un des rescapés du Bataclan, Arthur Denouveau. Il préside l'association des victimes Life for Paris. Et puis cette question, quel est le niveau de la menace terroriste aujourd'hui, 10 ans après, à 8h30, dans le face-à-face? Mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. On reviendra aussi sur la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il est arrivé hier soir libre en Allemagne. Et vous, où étiez-vous le 13 novembre 2015? Votre vie a-t-elle changé depuis? Est-ce que vous estimez que la France a gagné contre le terrorisme islamiste? J'attends vos réactions et vos témoignages au 3216 et sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Et vous le savez, depuis hier, RMC vous offre 120 000 euros. 120 000 euros, c'est du jamais vu. C'est la plus grosse somme d'argent jamais offerte sur RMC. Restez bien à l'écoute. Il y aura une alerte d'ici 9h et il faudra pouvoir la saisir sur RMC. Apolline Matin, c'est parti dans un instant de journal de 7h. Et la météo, c'est beaucoup de douceur au menu, Géraldine.
Et oui, toujours cette douceur complètement hors norme pour la saison. Et parfois plus de 10 degrés au-dessus des normales. Aussi bien le matin que l'après-midi, puisqu'on attend encore 25 degrés à Biarritz cet après-midi. On pourrait même localement aller jusqu'à 27, 28 degrés. 22 degrés à Bordeaux, à Marseille. Il fera 21 à Clermont-Ferrand, 20 à Lyon, Grenoble, 18 à Paris, 16 à Brest et à Lille. Avec un soleil souvent quand même bien voilé, donc ça donne un ciel un petit peu laiteux. On aura de la pluie vers les côtes de la Manche et puis on a aussi des entrées maritimes sur le golfe du Lion, puisqu'on a un très fort vent de sud avec des rafales qui dépassent parfois les 110 km par heure sur les crêtes pyrénéennes. Les températures vont commencer à baisser, surtout entre dimanche et lundi. Et la semaine prochaine, on repassera même carrément sous les normales.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Il est 7h et vous êtes bien sur RMC, la radio sur RMC Story, la télé.
RMC, Apolline Matin.
Excellent réveil à tous. Tout de suite, le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le temps du souvenir, 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, cérémonie et hommage ce jeudi aux 132 morts, aux centaines de blessés et rescapés de cette soirée gravée pour toujours dans les mémoires. Témoignages à suivre dans ce journal. Boualem Sansal, gracié et libéré, emprisonné depuis un an, l'écrivain a quitté Alger, direction l'Allemagne, où il est soigné ce matin à Berlin. Et le mondial nord-américain en ligne de mire des Bleus, opposé à l'Ukraine ce soir.
L'hommage de la nation aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.
Du Stade de France au Bataclan, passant par les terrasses, il y a 10 ans, jour pour jour, la France était frappée en son cœur par 3 commandos terroristes. Scène de guerre en plein Paris, 132 morts, plus de 350 blessés, des centaines de rescapés. De l'horreur, cérémonie d'hommage aujourd'hui dès 11h30 au Stade de France en présence d'Emmanuel Macron qui va se recueillir devant chaque site attaqué ce soir-là avant l'inauguration ce soir d'un jardin mémoriel au cœur de la capitale. Point d'orgue d'une journée forte en émotion, Marion Gauthier.
1500 invités, sans public, des survivants, des familles de victimes, des services de secours, des policiers ou des magistrats, ceux qui étaient là il y a 10 ans. La tribune fait face au jardin dont les allées reproduisent le plan de Paris. Au milieu des noms des disparus inscrits dans le granit, un orme centenaire, symbole de justice, puis les marches de l'église Saint-Gervais qui accueilleront un chœur. Des rescapés et proches de victimes uniront aussi leur voix, la chorale du 13, de la musique, du rock que chantent les spectateurs d'un stade, d'un concert ou les clients d'une terrasse animée. Il faut honorer la mémoire des morts, célébrer l'énergie des vivants, résume Arthur Desnouveaux. Il est président de l'association Life for Paris. Thierry Reboul, le directeur artistique de la cérémonie, espère un moment d'unanimité.
Les témoignages ce matin de 2 rescapés, Alexia et Audrey, elles étaient présentes au Bataclan au soir du 13 novembre. Inconnues à l'époque, elles ont forgé depuis une amitié hors norme, née de l'horreur, une manière de se reconstruire à l'épreuve du temps. Un témoignage RMC recueilli par Julie Brault.
Moi, j'ai aucun regret. J'arrive même pas à regretter d'être allée au Bataclan, en fait. Et je trouve que entre la souffrance que j'ai vécue à l'époque, qui n'était pas minime, et ce que j'ai gagné, en fait, aujourd'hui, l'addition, l'équation, elle est sans regret, quoi.
C'est parce qu'en fait, je pense qu'on s'est tous retroussé les manches pour aller chercher, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est nous.
Ouais, l'élan vital.
Voilà, c'est ça, l'élan vital. C'est exactement ça. Le fait de dire, hé, regarde, je te donne un ticket, t'as une seconde chance, t'as une seconde vie, et tu vas.
Et où en est la menace 10 ans après la menace terroriste? Je poserai la question à 8h30 au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur RMC et BFM TV.
Boualem Sansal est libre ce matin, hospitalisé à Berlin où il est soigné pour son cancer de la prostate. Après un an de prison en Algérie, l'écrivain de 81 ans condamné par Alger a été gracié par le président algérien à la demande de son homologue allemand. Décisif dans cette libération, Romain Cluzel.
Exactement, parce que les relations entre la France et l'Algérie étaient trop dégradées pour faire avancer les négociations. Alors le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, a pris le relais comme tiers de confiance, selon Emmanuel Macron, alors que Boualem Sansal est aussi un auteur reconnu en Allemagne. Des discussions menées depuis des mois et qui aboutissent à peine quelques semaines avant une visite du président algérien prévue à Berlin début 2026. Avec cette libération, Emmanuel Macron espère pouvoir rouvrir les discussions avec Alger dans une relation calme et respectueuse, allusion à peine voilée à l'attitude de Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, une attitude fustigée par un conseiller de l'Élysée. Le bras de fer ne fonctionne pas, il est douteux que l'on obtienne les meilleurs résultats en se fâchant avec les gens que l'on sollicite.
L'éducation nationale visée par une plainte pour harcèlement déposée par l'épouse de Caroline Grandjean, harcelée en raison de son homosexualité. L'institutrice s'était suicidée le jour de la rentrée scolaire dans son village du Cantal. Le maire de la commune où elle enseignait est également visé par la plainte. Détail à suivre dans le journal de 7h30.
7h04 sur RMC. Les débats sont clos à l'Assemblée nationale. Le budget de la sécurité sociale va partir au Sénat dans sa version modifiée, mais pas votée.
Les députés n'ont pas réussi à boucler dans le temps imparti l'examen du texte qui comprend la suspension de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028. Elle a été votée hier après-midi avec les voix du PS, des écologistes et du RN, sans que la question de son financement ne soit tranchée, Cyprien Pézril.
300 millions d'euros à trouver l'année prochaine, près de 2 milliards la suivante, pour financer la suspension de la réforme des retraites. L'insoumis Adrien Clouet et l'écologiste Sandrine Rousseau s'inquiètent.
La question est de savoir à qui comptez-vous faire les poches.
Messieurs et mesdames les ministres, comment allez-vous financer ce décalage?
Le gouvernement prévoyait de mettre à contribution les mutuelles et de geler les retraites. Les députés ont dit non. Le risque alors, c'est que le déficit s'envole. Pour l'éviter, les solutions sont simples, assure Thomas Ménager du RN.
L'immigration, la gabegie, la fraude, c'est là que se trouvent les milliards qu'il nous manque pour les retraites.
La semaine dernière, les socialistes ont fait voter une hausse de la CSG sur des placements financiers. Près de 3 milliards d'euros dans les caisses, beaucoup de Français concernés, mais pas les plus modestes, jure le député PS Laurent Baumel.
Les livrets A et ce type de produits sont épargnés par cette mesure. Et les PEL, on est sur des ordres de grandeur de 50 centimes en plus par mois. Donc en fait, la charge elle va essentiellement porter sur des gens qui ont des gros patrimoines.
Une rustine, dénonce un élu LR, mais le gouvernement confirme. C'est bien avec cette hausse de la CSG que la suspension sera financée.
Autre coup, la création d'un congé naissance qui pourrait permettre aux parents de prendre 2 mois supplémentaires chacun à la naissance de leur enfant, approuvé par l'Assemblée nationale. Reste à savoir si la mesure sera maintenue par le Sénat qui entame l'examen du texte en commission à la fin de la semaine. Emmanuel Macron rassure les agriculteurs à Toulouse. Un accord avec les pays du Mercosur en l'état, c'est non, dit le chef de l'État qui précise ses propos tenus la semaine dernière. S'il y a du positif, le compte n'y est pas. La FNSEA, premier syndicat agricole, attend désormais que le président exprime son opposition à la signature de cet accord en décembre, ce sera à Bruxelles. Les Bleus, en quête d'une qualification à la Coupe du Monde face à l'Ukraine ce soir au Parc des Princes. Un nul pourrait suffire aux hommes de Didier Deschamps, parmi eux N'Golo Kanté, exilé en Arabie Saoudite, le champion du monde 2018, absent de la sélection depuis un an, à la confiance du sélectionneur et des supporters tricolores. Florent Germain, toujours très attaché au milieu de terrain.
Oui, la cote de popularité de N'Golo Kanté est toujours aussi élevée. Le milieu de terrain est appelé de temps en temps chez les Bleus depuis qu'il évolue en Arabie Saoudite et il a été cette semaine l'un des joueurs les plus réclamés à Clairefontaine pour les traditionnelles photos et autographes. Pas une surprise pour le sélectionneur Didier Deschamps.
N'Golo va bien, il a toujours le sourire, toujours à son meilleur niveau. Il a vécu une expérience importante aussi pour ce type de rendez-vous.
Petit bonhomme, comme l'appelle Deschamps, est sur ce rassemblement l'un des 4 rescapés du titre mondial de 2018 avec Lucas Hernandez, Florian Thauvin et évidemment Kylian Mbappé. À l'heure de valider le ticket pour la Coupe du Monde, le capitaine des Bleus compte sur N'Golo Kanté.
N'Golo est un joueur qui donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers sur le terrain. C'est une valeur sûre. On le voit revenir. On sait qu'il est très content d'être avec nous. On l'est encore plus et on espère qu'il va être performant comme il l'a toujours été en équipe de France.
Et si la France valide ce soir son ticket pour la Coupe du Monde, il sera toujours possible de ressortir quelques chansons qui rappellent de si bons souvenirs aux supporters des Bleus.
N'Golo Kanté ce soir donc, France-Ukraine, 20h45 à vivre en direct et en intégralité sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08, on part au 32-16. Saba qui voulait témoigner auprès de nous, bonjour Saba.
Bonjour,
vous êtes auto-entrepreneuse dans une équipe de nettoyage, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Vous vouliez témoigner de vos conditions parce que c'est cette étude qui est sortie ce matin par l'ANSES, l'agence de toutes les questions d'hygiène et de santé, qui dit que c'est aujourd'hui très dangereux parce qu'il y a des mal au dos, des horaires décalés, de la précarité et une exposition à des produits chimiques. Saba, quel est votre quotidien à vous ?
C'est tout à fait ça. Mon quotidien, c'est partir à 5h du matin, aller faire des ménages. Encore moi, maintenant, je ne fais plus les allées, je ne sors plus les poubelles parce que maintenant, je fais que les particuliers.
Oui.
Et je vais vous dire que quand vous allez à 4-5h du matin, qu'il faut sortir les poubelles, que souvent vous trouvez des vers, des infections, vous avez des maladies de peau. Les produits sont très agressifs. Après, quand des particuliers vous demandent de nettoyer avec du vinaigre, l'odeur est tellement forte que ça vous incombe les poumons. Mais cette corporation, je trouve, n'est pas assez protégée. Et moi, j'en ai eu une maladie professionnelle, ça a été de l'asthme.
Vous avez développé de l'asthme ?
De l'asthme, mais vraiment aggravé.
Ouais.
Et
ça va mieux aujourd'hui ?
Oui, ça va mieux.
Comment vous avez fait pour que ça aille mieux ?
J'ai été chez un pneumologue, un spécialiste, un professeur qui me suit maintenant tous les 6 mois.
D'accord.
Mais ensuite, pour détecter ça, vous amenez tous vos produits, la sécurité sociale les analyse, parce que pour avoir une maladie professionnelle, c'est sûr que c'est pas évident. Mais malheureusement, tout.
Aujourd'hui, vous travaillez en équipe. Vous êtes auto-entrepreneur, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Vous travaillez en équipe ou seul ?
La plupart du temps, je suis seule. Sinon, j'ai une collaboratrice.
D'accord. Et vous gagnez combien ? Et vous gagnez combien à la fin du mois, Saba ?
On peut dire qu'en auto-entrepreneur, on peut bien gagner sa vie.
D'accord.
Voilà.
Donc ça, au moins, il y a ça.
Au moins, il y a ça. Mais par contre, si on est malade, on n'est pas payé. Il n'y a pas de sécurité sociale.
Ouais.
Et je ne comprends pas, quand on paye du RSI, qu'on paye des impôts...
Oui, vous
je
cotisez.
Je ne comprends pas exactement. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas une couverture sociale pour ça.
Saba, on vous accompagne au travail, alors, le matin, en fait, si je comprends bien. Puisque à 7h, vous êtes au travail, là ?
Moi, je suis partie déjà depuis ce matin, 5h.
Voilà, c'est ça. Donc, on vous accompagne. Et merci en tout cas, Saba, de votre témoignage. Ils sont nombreux ce matin pour réagir effectivement à cette étude. Très belle journée à vous, Saba. Vous êtes un rayon de soleil quand même dans votre voix. Merci. Il est 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il était incarcéré depuis près d'un an. Boualem Sansal a été libéré hier, enfin, par l'Algérie, l'écrivain franco-algérien qui est arrivé hier soir en Allemagne pour être soigné. Bonjour Noël Lenoir.
Bonjour.
On imagine votre sourire ce matin. Je voudrais que les gens qui nous écoutent le voient. Vous êtes la présidente du comité de soutien de Boualem Sansal. Cette libération, c'est un soulagement pour tout le monde et vous allez nous donner de ces nouvelles dans un instant. À tout de suite, 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Après 361 jours de prison dans les geôles algériennes, la fin du cauchemar pour Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, condamné par Alger pour atteinte à l'unité nationale, a été transféré hier soir en Allemagne. Bonjour Noël Lenoir.
Bonjour,
vous êtes ancienne ministre des Affaires européennes et vous présidez le comité de soutien à Boualem Sansal, qui a donc été officiellement gracié parce qu'il avait été officiellement condamné par Alger. Et c'est pour raisons humanitaires, disent-ils, qu'ils l'ont libéré. D'abord, votre réaction ce matin.
Alors d'abord, c'est un immense soulagement pour lui, je suppose, parce que je sais qu'il est arrivé vraiment... de façon exceptionnelle, dans la mesure où il était très gai, très souriant. C'est un peu un héros, puisqu'il ne s'est jamais plaint, et qu'il a résisté à ses geôliers, d'ailleurs en exigeant lors de son procès de parler en français. C'est la raison pour laquelle on lui a attribué un interprète, puisqu'il ne parlait pas arabe. Et donc, il a tenu, le choc d'une manière remarquable. Et puis, surtout, c'est une grande émotion, parce qu'il était inacceptable, je crois, pour beaucoup de Français, et pour beaucoup de gens, dans le monde politique notamment, qui nous ont soutenus et qui l'ont soutenu, qu'un écrivain soit embastillé uniquement parce que ses livres et ses propos déplaisaient à un pouvoir, c'est d'ailleurs le pouvoir algérien.
C'est aujourd'hui l'Allemagne qui finalement a réussi à obtenir cette libération. J'ai du mal avec le mot gracié, parce que gracié voudrait dire qu'il est coupable, mais c'est la procédure telle qu'elle a été faite finalement et ce qui a permis enfin sa libération. Pourquoi l'Allemagne ?
Alors l'Allemagne, d'abord, c'est un poids lourd en Europe. Et comme vous le savez, l'Algérie a beaucoup de choses à demander à l'Europe, notamment la révision d'un accord d'association Union européenne-Algérie, qui est très favorable à l'Algérie, et que le président Tebboune, compte tenu de la crise économique et de l'annonce peut-être de la baisse du prix du pétrole qui impacterait cette économie de rente pétrolière, il a besoin de l'Europe. Et l'Allemagne est un poids lourd. Deuxièmement, l'Allemagne a des liens historiques qui sont peut-être pas très agréables à entendre pour des Français, puisque l'Allemagne, et notamment le parti socialiste SPD, auquel appartient Frank Steinmeier, qui a demandé officiellement...
Qui est celui qui a officiellement obtenu...
Le président allemand. Eh bien, l'Allemagne, même de d'Adenauer, qui s'appuyait à l'époque sur les socialistes allemands, a financé le FLN et procuré des armes au FLN. Ensuite, il y a des liens économiques, énergétiques, que nous n'avons pas, parce que l'énergie algérienne représente un peu moins de 7% de nos ressources énergétiques. Et troisièmement, il ne faut pas oublier que M. Tebboune, le président algérien, a été sauvé par des médecins allemands lorsqu'il a eu un Covid extrêmement sérieux et qu'il est allé se faire soigner en Allemagne. Et à chaque fois qu'il a mal, comme nous a-t-on dit récemment, il avait mal aux pieds, eh bien il est allé en Allemagne et a disparu pendant plusieurs semaines de l'Algérie.
Il se fait soigner et c'est une tradition donc qui s'est installée. Noël Lenoir, on pense évidemment ce matin... au journaliste de SoFoot, Christophe Glaise, qui est en ce moment même lui-même embastillé, comme vous dites. Est-ce qu'il y a un espoir ?
Alors je pense que maintenant, c'est impossible de s'arrêter là. Nous avons fait un communiqué, le comité de soutien a toujours, dès le premier jour, dès l'annonce de sa condamnation, à 7 ans de prison, uniquement parce qu'il a interviewé un sportif, un footballeur kabyle, parce qu'il y a une équipe historique de football kabyle, et comme vous le savez, la Kabylie est l'obsession du pouvoir algérien. Il pourchasse les kabyles. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est que, puisque M. Steinmeier a été aussi efficace, eh bien, qu'il continue sur sa lancée.
Et qu'il demande la libération de Christophe Glaise. Un mot encore sur cette loi que vous redoutez, une loi qui élargirait la notion de traître à la patrie, y compris aux Algériens hors d'Algérie, ce qui menace, qui représente une menace supplémentaire du pouvoir algérien sur ses ressortissants.
Absolument. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Kamel Daoud, qu'il faut soutenir aussi...
Le prix Goncourt, écrivain franco-algérien.
Voilà, nous a alertés. Il y a des législations pénales abominables qui, depuis la prise de pouvoir du président actuel en Algérie, pourchassent tous ceux qui ont des idées différentes. Vous êtes en prison si vous vous convertissez à une autre religion. Et maintenant, c'est la diaspora qui va continuer à faire l'objet de pressions et de menaces. Et donc, nous pensons qu'il faut quand même que l'Algérie, vis-à-vis de laquelle on a des leviers économiques, comprenne qu'il faut qu'elle baisse un tout petit peu le ton, et essentiellement parce que
La liberté, effectivement, pour laquelle vous vous êtes battu avec le comité de soutien à Boualem Sansal et pour lequel, on le comprend bien ce matin, vous continuez à vous battre. Noël Lenoir, merci à vous d'être venu réagir ce matin. Notez qu'à 8h30, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera mon invité sur RMC BFM TV. Il est 7h19.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
l'historien d'Apolline Matin. Arthur Chevalier nous a rejoint. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, une messe prévue samedi à Verdun a été interdite. Elle devait rendre hommage à Philippe Pétain.
Oui, le maire de la ville refuse de rendre hommage à l'ancien maréchal frappé d'indignité nationale. Il a bien raison, puisque Pétain, c'est un criminel qui a collaboré avec l'Allemagne nazie.
Vous nous racontez ça dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h21 sur RMC la radio, sur RMC Story la télé, et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le maire de Verdun a décidé d'interdire une messe prévue demain, après-demain, en hommage à Philippe Pétain, une figure qui a toujours fait débat évidemment. Et pour vous Arthur, en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait débat.
Non, il n'y a aucun débat, puisque aujourd'hui nous avons les preuves que Pétain a trahi la France. De son côté, l'association à l'origine de cette cérémonie a quand même saisi le tribunal administratif en référé pour contester cette décision.
Mais pourquoi est-ce que certains veulent commémorer Pétain ?
Alors, parce que le maréchal Pétain a eu une première carrière, si on peut dire, pendant la guerre de 14-18 contre l'Allemagne. C'est un des grands généraux français et il va se distinguer d'abord par sa participation à une victoire décisive, celle de la bataille de Verdun, justement. Mais c'est pas tout, puisque Pétain était aussi très porté sur les stratégies défensives, ce qui revenait à épargner la vie des hommes. Dans une guerre très meurtrière, il avait la réputation de faire très attention aux soldats.
Et c'est ça qui va contribuer à sa réputation.
Exactement. Pétain va devenir une des figures militaires les plus populaires de l'entre-deux-guerres. Il cultivait une image de type plutôt sympathique, un français normal, débonnaire, qui plaisait d'ailleurs beaucoup aux femmes et surtout qui se tenait loin de la politique.
Et c'est ça qui va évidemment changer.
Absolument. Dans les années 1930, Pétain est séduit par les régimes fascistes, celui de Mussolini en Italie et de Franco en Espagne. Là-dessus, la Seconde Guerre mondiale arrive. La France subit une déroute contre l'Allemagne et en 1940, Pétain prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État et il instaure un régime autoritaire, l'État français, avec comme capitale Vichy.
De quoi le maréchal Pétain s'est-il ensuite rendu coupable ?
Alors, de beaucoup de choses. D'abord, il a collaboré volontairement avec l'Allemagne nazie. Il a directement participé à la rédaction des lois sur le statut des Juifs en 1940. Je précise qu'on a des notes manuscrites de Pétain sur ces lois. Des lois qui, d'ailleurs, retiraient tous leurs droits civiques aux Juifs. Pétain a aussi fait arrêter et tuer des opposants politiques. Il est complice d'assassinats de Français qui ont résisté à l'occupation allemande. Bref, la totale du collabo.
Et à la libération, il a été jugé.
Oui, c'était le 15 août 1945. Pétain est jugé coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Il est condamné à mort. Une condamnation que De Gaulle transforme en détention à perpétuité. Une peine que Pétain va purger sur l'île Dieu, où il meurt en 1951. Depuis, la mémoire de Pétain fait débat. Le héros de la Première Guerre mondiale d'un côté, le collabo de l'autre. Mais les faits sont là, Apolline. Pétain a dirigé le gouvernement le plus inhumain de l'histoire de France, donc il n'y a chez lui plus rien à commémorer.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Arnaud, mon invité, tout à l'heure à 8h30, ce sera le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Allez, Lui, c'est l'invité qu'il fallait avoir aujourd'hui. Hein. Le 13 novembre, alors là, à Pau, vous avez battu tout le monde. Impo, elle a éclaté la concurrence. Vous avez roulé sur Benjamin Duhamel. Vous avez écrasé Sonia Mabrouk qui doit être en dépression avec un pauvre député LFI sur la réforme des retraites. Il y a Marc-Olivier Fogiel en PLS sur RTL. Oh, Apolline, elle a Nunez. Oh, elle a Nunez, la meuf. Oh, incroyable. C'est la guerre des matinales. C'est impitoyable. Alors sur Sud Radio, comme tous les matins, ils ont Nicolas Dupont-Aignan. C'est juste parce qu'ils offrent des mini-viennoiseries, donc il en profite pour se nourrir, le pauvre. Alors, Laurent Nunez appelle à un renforcement des mesures de vigilance aujourd'hui pour les commémorations des attentats du 13 novembre. C'est pas un taf facile, un ministre de l'Intérieur. Hein. Moi, je voudrais pas faire ça. Parce que moi, quand je rate un truc, bon, il n'y a pas de rire, je prends un bide, et puis c'est pas grave. Lui, quand il se rate, il y a des victimes innocentes et tout, c'est compliqué. Il y a 10 ans, le 13 novembre au soir, enfin, on a tous été pétrifiés. Hein. Paris était devenu un enfer. Et pour une fois, Anne Hidalgo n'y était pour rien. Le 14 novembre, on s'est tous réveillés un peu moins innocents. Hein. Un peu comme une jeune femme qui a voulu prendre un cours d'hypnose le soir chez Gérard Miller.
Oh,
on s'est réveillés
moins innocents.
Alors les services de renseignement aujourd'hui mettent en garde contre un djihadisme TikTok. C'est un terrorisme où des adolescents radicalisés en ligne passent à l'acte en fait. Et souvent, ils préviennent pas. Ça donne des résultats chelous, hein, le djihadisme TikTok, quand tu regardes une vidéo avec la chanson.
Et ça fait clic, clic, clic.
clic, pam, pam, pam. Voilà, en chorégraphie, bah maintenant t'as soit une pré-ado en crop top qui fait comme ça, soit un djihadiste barbu. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 13 novembre 2015. Par contre, je connais plein de gens qui se souviennent pas forcément bien de ce qu'ils ont fait les jours d'après. Mmh. Ensuite, parce que, souvenez-vous, notre premier réflexe de Parisien, en signe de résistance, ça a été de boire des coups en terrasse. J'avais des potes, ils y étaient tous les soirs en terrasse, jusqu'à la fermeture, non-stop. Ils disaient, hey, les djihadistes, on est plus forts que vous. Hey, viens d'être bagarrés, si tu l'oses. Notre meilleur rempart contre l'État islamique, c'est l'État d'ébriété. J'espère qu'Emmanuel Macron va pas l'appeler pendant votre interview, Laurent Nunez. Laurent, reviens à l'Assemblée, il y a des terroristes qui ont pris en otage ma réforme des retraites. Ma pauvre réforme, envoie le GIGN tout de suite. Ça s'arrête jamais pour ce pauvre Nunez. Courage à lui, bisous aux victimes. Bonne journée à tous.
Et à tout à l'heure. À 8h20, Arnaud Demange, il est 7h26. Et arrêtez tout.
RMC vous offre 120 000 euros.
Arrêtez tout parce que c'est énorme. C'est l'alarme qui vous permet de gagner 120 000 euros. 100 000 euros pour vous. 20 000 euros pour la personne de votre choix. Attention, si elle écoute RMC, il faut dire autour de vous d'écouter RMC, on l'appellera. Et ce sera 20 000 euros de plus dans la poche pour jouer. Vous envoyez tout de suite RMC au 732-16. RMC au 732-16. Vous avez 10 minutes. Il est donc 7h27. Vous avez jusqu'à 7h37 pour vous inscrire. Envoyez RMC au 732-16. Bonne chance à tous. 120 000 euros plus de 100 patates.
75 centimes par SMS. 4 SMS maxi.
Et dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et dans la demi-heure qui vient, début à 11h30 ce matin, des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. C'était il y a 10 ans, un commandant islamiste qui faisait 132 morts au total. Arthur Denouveau, rescapé du Bataclan, président de l'association des victimes, Life for Paris, est mon invité dans 10 minutes sur RMC. Il est 7h28. 7h29 sur RMC. La météo, c'est beaucoup de douceur, Géraldine.
Douceur complètement exceptionnelle, hors norme, avec des températures parfois plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. 22 degrés, c'est la température actuelle à Biarritz. On devrait atteindre les 25 degrés cet après-midi. Localement, d'ailleurs, au sud des Pyrénées, on pourrait même aller jusqu'à 28, 29 degrés. C'était le cas hier, par exemple, à Oloron. Il fera 22 degrés cet après-midi à Bordeaux, à Marseille, 20 à Lyon, 18 à Paris, 16 à Lille, avec un soleil souvent assez voilé pour aujourd'hui. De la pluie près de la Manche, mais aussi dans le golfe du Lion à cause d'un très fort vent de sud.
Quel temps, quelle température aujourd'hui? Ne ratez rien des prévisions météo près de chez vous. Prochain bulletin dans une demi-heure sur RMC.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les agents de nettoyage, deux fois plus touchés par les maladies professionnelles que l'ensemble des salariés. C'est le constat alarmant dressé ce matin par l'Agence de sécurité sanitaire. C'est une date que personne ne pourra oublier. La France commémore les attentats du 13 novembre 2015. Témoignage dans ce journal de l'ancien chef de la BRI qui a mené l'assaut final au Bataclan. Et puis une plainte déposée contre l'éducation nationale par la veuve de l'institutrice Caroline Grandjean qui s'était suicidée le jour de la rentrée après des mois de harcèlement homophobe.
Ils sont plus d'1 200 000 salariés en France et leur santé est en danger.
Ce sont eux qui nettoient souvent à l'aube ou tard le soir les entreprises, les hôpitaux ou encore les écoles. 1 200 000 agents de propreté, dont plus de 70% sont des femmes, exposés au quotidien à des produits chimiques et soumis à des conditions de travail souvent très précaires. Et forcément, ça a des répercussions. Selon un rapport publié ce matin par l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, ces travailleurs sont deux fois plus touchés par les maladies professionnelles que les autres. Cassandre Brault a rencontré l'une d'elles pour RMC.
Le réveil sonne à 4h15.
Tous les matins, c'est la même routine pour Aïcha.
Pour arriver à 6h pile là au travail.
Le début de sa première mission de nettoyage, il y en aura deux autres dans la journée.
On court après l'heure, même en dormant, on regarde la montre.
Cette mère célibataire de 51 ans n'a pas le choix. Elle doit avoir plusieurs employeurs pour s'en sortir.
Parce que notre salaire, elle est trop bas. Ça ne suffit pas pour nourrir nos familles. On n'a pas beaucoup d'heures. C'est rare qu'on trouve des gens qui en ont temps plein.
Donc elle enchaîne dans une université parisienne d'abord, puis dans des entreprises. Un métier très physique.
faut pousser les chariots qui sont vraiment lourds. Il y a de l'eau, il y a des produits, il y a les sacs poubelles. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Pour nous, la minute, ça compte.
Et ça se répercute sur sa santé.
J'ai un problème dans les genoux et ça m'a posé sur le dos aussi. Voilà quoi, j'ai un petit peu mal.
Un sourire et elle minimise. Elle ne peut pas être arrêtée, regrette-t-elle. Il faut payer le loyer.
On n'a pas le droit. On ne voit pas d'avenir. Pour nous, on est là aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Et la seule chose qu'on a gagnée, c'est d'avoir mal partout et une santé qui ne suit pas.
Aïcha repart vers sa prochaine mission. Le soir, elle ne rentre jamais chez elle avant 22h.
Un mot des chiffres du chômage en hausse de 0,1 point au troisième trimestre. Il est 7h33 et c'est un jour dont tout le monde se souvient avec une précision quasi intacte. 10 ans après le 13 novembre 2015, la France commémore ce qui aura été l'attaque djihadiste la plus meurtrière de son histoire. 132 morts au total. À partir de 11h30 ce matin, Emmanuel Macron se recueillera sur chaque lieu meurtri. Le Stade de France, les terrasses du nord de Paris et bien sûr le Bataclan, avant d'inaugurer à 18h un jardin mémoriel derrière l'hôtel de ville avec une cérémonie à huis clos réservée aux survivants, aux familles de victimes et aux secours. Christophe Molmy sera présent. Il était à l'époque le chef de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de Paris, qui a libéré les otages du Bataclan, une nuit dont il ne peut rien oublier. Il témoigne ce matin au micro RMC de Julie Brou.
Les années n'ont rien effacé. Pour Christophe Molmy, le souvenir du Bataclan reste douloureusement intact.
C'est notre métier, mais personne n'est préparé à ça, il faut être clair. Le poids, encore une fois, du massacre est très lourd.
L'ancien chef de la BRI se souvient encore de l'assaut qu'il a dirigé contre les terroristes, permettant de sauver 11 otages.
Ça, c'est une photo des otages du couloir, il me l'a offerte. Je pense qu'il y a une sorte de lien indicible, il y a quelque chose qui nous lie. Ouais.
Et puis il y a les bruits, les images de l'horreur qui persistent toujours 10 ans plus tard.
C'est une question de stimuli. Une fois, j'étais dans un théâtre avec mon épouse qui ressemblait un petit peu, bon, forcément ça nous touche.
Je suis marqué à vie, dit-il, tout comme la BRI forcée de se réorganiser depuis qu'elle a fait face pour la première fois ce jour-là à des terroristes résolus à mourir.
On ne pouvait pas prendre vivant quelqu'un qui a un gilet explosif et qui est venu pour mourir. Ça oblige à reconsidérer toute la balistique, c'est-à-dire les gilets pare-balles, les casques, l'armement aussi. Ça a obligé à recruter et à plus que doubler d'ailleurs l'unité.
Aujourd'hui, 100 policiers d'élite composent la BRI, des hommes entraînés à faire face à toutes les formes de terrorisme, y compris les attaques chimiques et nucléaires.
Il salue le geste d'humanité de l'Algérie. Emmanuel Macron a exprimé son soulagement hier soir après la libération de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien atteint d'un cancer a été gracié et sera soigné à Berlin en Allemagne où il a atterri dans la soirée. Il est 7h35 et c'est une affaire qui avait provoqué beaucoup d'émotions. Le suicide le jour de la rentrée de l'institutrice Caroline Grandjean dans le Cantal après des mois de harcèlement homophobe. On l'a appris hier soir, Romain Houg, sa veuve porte plainte contre l'éducation nationale.
Oui, une plainte qui vise également le maire du village de Moussage où est située l'école dont elle avait été la directrice, la même école dont les murs avaient été recouverts de tags homophobes, déclenchant une enquête finalement classée sans suite en l'absence de faits nouveaux, avait précisé le parquet. Caroline Grandjean était la cible de harcèlement depuis septembre 2023 en raison de son homosexualité, des écrits qu'elle a laissés avant sa mort dans lesquels elle évoque un acharnement et un manque de soutien de sa hiérarchie. En arrêt maladie, l'enseignante s'était vu proposer un poste à quelques kilomètres de Moussage pour la rentrée scolaire, mais elle n'avait pas réussi à reprendre le travail. C'est son épouse qui a décidé de porter plainte. Mon combat, c'est qu'elle soit reconnue victime, avait-elle déclaré devant la presse il y a 2 mois. Toute la lumière doit être faite sur les circonstances qui ont conduit à ce drame, répond le ministère de l'Éducation nationale, qui rappelle qu'une enquête judiciaire et qu'une enquête administrative sont en cours.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Il est 7h36 et on en vient à cette proposition des notaires de France qui réclame la création d'un statut juridique pour reconnaître officiellement les beaux-parents, une nécessité, disent-ils, à l'heure où un enfant sur 10 vit désormais dans une famille recomposée. Antonin Audion.
3 enfants une semaine sur 2 depuis plus de 10 ans chez lui, qu'il nourrit, emmène à l'école ou chez le médecin, mais pour qui légalement il n'est personne. Depuis plus de 10 ans, Christophe vit avec sa femme et les 3 enfants qu'elle a eus d'un premier mariage.
Au début de l'année, on remplit sur le carnet nom du père, nom de la mère, et qu'on rajoute le nom du beau-père en précisant qu'il est beau-père. Ben voilà, quelle existence légale, juridique pour ce beau-père.
Au-delà des lourdeurs administratives, Christophe anticipe les problèmes d'héritage entre ses 3 filles et la 4e qu'il a eue en commun avec sa femme.
Je veux surtout pas ça, ils s'entendent tellement bien tous les 4 qu'il faut pas que si demain il m'arrive quelque chose, alors l'argent, parce qu'on le sait, quand il y a à un moment donné un héritage, c'est là qu'il peut commencer à y avoir avoir des soucis. Je veux pas que ça devienne un sujet entre eux et je veux pas qu'ils se sentent lésés les uns les autres.
Pour y remédier, le Congrès des notaires de France propose d'inscrire dans la loi les liens au sein des familles recomposées. Jean Gastet est notaire et président honoraire du Congrès.
Reconnaître non pas un statut, mais une déclaration. C'est un acte volontaire du beau-parent vis-à-vis du bel enfant. On reconnaît qu'on a un lien ensemble et que la société doit le reconnaître pour nous.
La déclaration permettrait d'offrir une solution plus simple que l'adoption aux familles recomposées.
Et on donne tout de suite la parole à Thierry, qui nous a appelé pour témoigner depuis l'Hérault. Bonjour Thierry.
Thierry, bonjour, vous êtes
artisan, vous vouliez réagir justement à ce nouveau statut. À côté des parents, il y aura désormais le statut de beau-parent.
Moi, je trouve ça très bien, puisqu'on... Bon, après, on va pas se mentir, ce qui compte, c'est l'affectif et l'amour qu'on donne à nos enfants. Après, comme on est dans un monde où il faut tout administrer et trouver des statuts, moi, je trouve ça très bien.
Vous en avez-vous de vos enfants ?
Ben moi, si vous voulez, mes enfants, ils ont un beau-père qui est génial avec eux. Et il a fait, lui, ses démarches de son côté pour les mettre sur l'héritage. Et nous, on n'est pas là pour faire de l'ego trip, hein, les adultes. Donc moi, je trouve ça très bien.
Ne pas être en compétition, justement.
Ben voilà, ce qui compte, c'est l'intérêt et le bien-être de nos enfants sur le moment et sur l'avenir. Et c'est pas une guerre entre adultes et nos égos, quoi. Nos égos, ils doivent partir à la poubelle, quoi, à ce moment-là.
Merci pour votre témoignage, voilà, Thierry. Cette reconnaissance qui permettrait effectivement d'encadrer le rôle de beaux-parents, c'est une proposition pour l'instant, c'est pas tout à fait fait. Élise, un mot de foot.
En football, oui, les Bleus ont une chance de se qualifier ce soir pour le Mondial 2026, mais pour ça, il faudra battre l'Ukraine au Parc des Princes, coup d'envoi à 20h45 à vivre évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, Élise.
Avec notre pronostic du jour, 13h55 sur l'hippodrome de Fontainebleau, le favori, c'est le numéro 7, Gérard Terborch, l'outsider, c'est le 4, Galord.
C'était le journal d'Élise Dangean, 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À partir de 11h30 ce matin, début des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. C'était il y a 10 ans. Ce commando envoyé par l'État islamique qui avait fait 132 morts au total à Paris et à Saint-Denis. Bonjour Arthur de nouveau.
Bonjour Apolline.
Vous êtes le président de l'association Life for Paris. Vous étiez au Bataclan le soir du 13 novembre. Vous faites partie des survivants. Vous allez participer à ces cérémonies. Aujourd'hui, la vie, votre vie a été complètement bouleversée, évidemment, depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a changé en France? Et est-ce que ces cérémonies, c'est une page qui se tourne ou une autre qui s'ouvre? On va revenir aussi sur votre témoignage et votre livre dans un instant. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43. Vous nous écoutez à la radio sur RMC. Vous nous regardez à la télé sur RMC Story. Et c'est l'heure de commencer cette journée d'hommage. Cette journée d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Ça commence à 11h30 officiellement, mais c'est toute cette journée où l'on se souvient de ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Bonjour Arthur de nouveau.
Bonjour Apolline.
Vous êtes l'un des rescapés du Bataclan. Vous présidez l'association Life for Paris. Life, la vie. Et vous témoignez jour après jour. Vous témoignez aussi dans ce livre que j'ai sous les yeux, Vivre après le Bataclan. C'est publié aux éditions du Cerf. Il y aura cette cérémonie, vous y serez évidemment tout à l'heure, cérémonie nationale qui 10 ans après va être retransmise, y compris à la télévision. C'est important pour vous, mais les cérémonies, quand on est justement dans la vie, comment on les traverse?
Écoutez, ces cérémonies, c'est un moment d'unité. Il faut voir quel périmètre. On a l'habitude de le faire entre nous, victimes, avec des politiques et un cordon de sécurité incroyable, en sentant qu'il y a une émotion globale autour, mais qu'on n'arrive pas tout à fait à rejoindre. Et c'est justement l'objectif cette année, c'est de se dire soyons tous ensemble, ayons ce moment d'unité nationale, célébrons évidemment nos morts, mais aussi la force de notre République et de notre culture. Les terroristes n'ont pas gagné ce soir-là, et c'est ce message-là qu'on veut faire passer, à la fois dans l'émotion, mais aussi dans une forme de joie vis-à-vis de la force de la France.
La force de la France, vous le dites beaucoup, vous, vos camarades d'infortune, mais qui sont pour beaucoup devenus vos copains.
Bien sûr.
On sent cette énergie d'ailleurs. Les terroristes n'ont pas gagné ce soir-là, dites-vous. La difficulté en même temps, c'est quand on voit qu'il y a encore des personnes qui se revendiquent de cette idéologie, quand on voit qu'il y a cette compagne de Salah Abdeslam qui vient d'être mise en examen et qui, semble-t-il, projetait, idéalisait encore des attentats. Comment on fait quand on a vécu ça?
C'est pas facile de voir ça. Je crois que ce qui rejoint toutes les victimes de terrorisme, quelle que soit leur origine, leur parcours, leur croyance, c'est l'envie que ça n'arrive à personne d'autre. Et quand on voit qu'il y a encore des terroristes, malgré nos témoignages, qui se disent « ça va servir ma cause de faire du mal », Je vous avoue qu'on peut avoir une petite déception en l'humanité. Après, on a appris en 10 ans à regarder le bon côté des choses, c'est-à-dire ce que nous, on arrive à produire, tous ces livres, ces documentaires, ces séries. C'est une manière de dire, mais attendez, face à leur nihilisme et à ces projets d'attentats mortifères, nous, on est capable de rajouter un surcroît de vie. Et je crois qu'on a vraiment essayé d'incarner le survivre et de montrer aux gens qu'en fait, c'était vraiment incroyable de pouvoir être vivant dans une démocratie.
Et je vous en remercie profondément. Je crois qu'on le ressent tous, cette énergie, effectivement, ce partage que vous avez avec nous, avec nous autres Français qui partageons bien sûr votre émotion aujourd'hui. Vous allez d'ailleurs passer une partie de la journée avec les autorités, comme vous disiez, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, les discours, les autorités politiques, les cordons de sécurité. Cette question de la sécurité, depuis, il y avait eu Charlie Hebdo, il y avait eu l'hypercacher, il y avait eu, même si on remonte, Mohamed Merah, nos vies ont changé, y compris dans notre façon d'appréhender le quotidien. Vigipirate, que l'on remonte, que l'on redescend. Comment vous appréhendez cette question-là aussi?
Depuis 2015, on sait qu'on a fait d'énormes progrès en matière de sécurité. C'est-à-dire que la réorganisation des services de renseignement, une meilleure collaboration, d'autres outils à la justice permettent d'éviter l'attentat. Beaucoup. Il y a malheureusement encore des victimes, mais beaucoup moins. Et donc, on se sent plus en sécurité. En revanche, comme vous le dites, il y a Vigipirate. Moi, quand on me parle de génération Bataclan, je parle de génération avec un S, Vigipirate. J'ai 39 ans, j'ai donc connu 30 ans de Vigipirate. Et ça, ce qui m'effraie, c'est qu'il n'y a plus de débat sur mais comment est-ce qu'on fait pour plus avoir besoin de Vigipirate. Et il y a un renoncement derrière ça qui est assez frustrant pour nous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on empêche les attentats qu'on est en train de lutter contre la partie politique du terrorisme. Et ça doit être le combat des années à venir, à mon sens.
La partie politique du terrorisme, vous estimez que, au fond, on fait en sorte qu'il y ait moins de passage à l'action ou à l'acte, mais la radicalisation, mais l'idéologie de mort, elle est là.
En tout cas, moi, c'est ce que je comprends de tout ce que nous disent les autorités ces derniers jours. C'est-à-dire que le pool de recrutement de djihadistes chez des jeunes Français qui n'ont pas quitté le territoire a l'air d'être toujours aussi gros. Et ça, quand même, ça doit nous interroger en tant que société. Et c'est très bien de commémorer, c'est très bien d'être dans l'émotion, c'est très bien de dire « attention, on va vous protéger ». Mais la question fondamentale, je crois que c'est de dire « il faut que le projet politique de la France soit compris par tous les Français et qu'on coupe l'herbe sous le pied des recruteurs djihadistes ». Et ça, soyons honnêtes, on n'y arrive pas. Je crois que c'est un problème de temps long et on a des politiques qui font que du temps court.
Ça, c'est très dur ce que vous dites à l'instant. Et promis, moi, en tant que journaliste politique, j'aurai cette phrase en tête. On a appris cette semaine, par l'intermédiaire de son avocate, que Salah Abdeslam, seul survivant du commando islamiste, disait vouloir ouvrir une porte aux partis civils et aller vers une justice restaurative, c'est-à-dire pouvoir parler. Est-ce que vous vous dites, oui, moi, je suis prêt à parler avec lui, ou est-ce que vous décelez peut-être une forme de cynisme? Comment vous accueillez cette idée-là?
Moi, la grande différence avec la plupart des Français, c'est que Salah Abdeslam, je l'ai déjà vu, et en fait, je lui ai déjà parlé à mon procès, et quelque part, il m'a déjà parlé. Par exemple, la trésorière de mon association était allée le voir à la fin d'une audience, et ils avaient eu un tête-à-tête de quelques minutes où ils avaient pleuré tous les deux. Donc, moi, j'ai pas cette énorme barrière psychologique de me dire, mais qu'est-ce que c'est de parler à Salah Abdeslam? En pratique, si j'étais face à lui, je sais pas de quoi on parlerait, justement parce que le procès a bien fonctionné. Et donc, j'entends une partie de mes adhérents me dire, moi, ça m'intéresse d'aller parler à des djihadistes, pour comprendre, pour leur expliquer ce que j'ai ressenti. Ils font pas de fixation sur Salah Abdeslam, je pense que certains le rencontreront peut-être, et ainsi de suite. On peut pas priver Salah Abdeslam du droit à vouloir parler aux victimes, et si des victimes veulent le faire, tant mieux pour elles. Chacun son chemin de reconstruction, on est vraiment dans la bienveillance là-dessus. Après, il faut être très prudent, en effet. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une rencontre entre quelqu'un qui est enfermé dans une idéologie et une victime qui est enfermée dans son malheur? Beaucoup de prudence là-dessus pour que ce soit pas un rêve qui tourne mal quelque part. Et par rêve, je veux dire une espèce d'illusion.
Un idéal
qui se passe mal. Mais en tout cas, la question de la justice restaurative, elle a quand même très bien fonctionné avec ETA. Elle a très bien fonctionné aux années de plomb en Italie, mais c'était un terrorisme beaucoup plus local. Donc voilà, il faut voir si ça peut marcher avec les djihadistes.
Un terrorisme dont on se disait qu'il avait eu un début et une fin, et c'est aussi la réserve du parquet national antiterroriste qui dit qu'il faudrait d'abord un renoncement réel et officiel de ces djihadistes à l'utilisation de la violence et au radicalisme avant de pouvoir effectivement parler.
Voilà, et c'est pour ça qu'il faut ces institutions qui fassent de la médiation entre les terroristes et les victimes pour dire « Attendez, nous on regarde ça avec du recul et on vous dit que là c'est peut-être pas le bon moment ».
Vous allez dissoudre votre association aujourd'hui, ça veut dire que c'est une page qui se tourne?
Exactement. On a fait tout ce qu'on avait prévu de faire quand on l'a créé, se regrouper, s'aider à aller mieux, aller devant la justice et puis créer ce jardin mémorial. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas à la fois dire qu'on ne veut plus être victime et garder une association de victimes active. Et donc, pour résoudre cette contradiction, on s'est dit qu'on allait finir sur une note la meilleure possible. Et on garde nos amitiés, mais on n'a plus besoin de ça pour avancer.
Plus besoin de cette association. Merci beaucoup, Arthur Desnouveaux. Votre livre, ça s'appelle « Vivre après le Bataclan », c'est aux éditions du Cerf. Merci pour la manière dont vous êtes, au fond, les ambassadeurs d'une vitalité française qui nous a tous émus et qui continue à nous émouvoir. Je vous signale d'ailleurs qu'RMC a produit un documentaire avec des archives, des témoignages des survivants 10 ans après. C'est à découvrir sur rmc.fr et sur le compte YouTube d'RMC. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, vous êtes bien sur RMC. Le bonus, Mathieu, Nintendo s'installe au cinéma.
Ouais. Le prochain film d'animation Mario, Super Mario Galaxy, il y a une première bande d'annonce qui vient d'être dévoilée, date de sortie avril 2026. Alors, on retrouve Mario et Luigi, les plombiers italiens en salopette rouge et verte, les personnages du premier film, les gentils, les méchants. Mais de nouveau, arrive, issu des jeux Mario de la saga ou Mario Kart aussi, on y retrouve surtout plein de références. Nintendo mise gros après le carton monumental de Super Mario Bros. En 2023 qui a cumulé, écoutez bien, plus d'1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde. Rendez-vous donc en 2026, Nintendo joue gros. Mais ce n'est pas tout. Nintendo prépare un autre projet majeur pour 2027. The Legend of Zelda, autre marque iconique de Nintendo, autre saga de jeux vidéo et cette fois un film en live action avec de vrais acteurs. Ambiance héroïque, fantasy avec la promesse d'un petit parfum de Seigneur des Anneaux. Pourquoi ? Parce que le film est tourné en Nouvelle-Zélande. Oui, le tournage a commencé le 4 novembre, il y a une dizaine de jours. Le film est prévu pour le 5 mai 2027. Faudra être patient, mais bref, après avoir vendu des consoles, Nintendo envahit le marché du pop-corn.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h54 et c'est l'heure de la voix de gauche, comme tous les jeudis. Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Apolline.
Cécile, les députés ont voté hier pour la suspension de la réforme des retraites de 2022 et c'est un vote qui vous réjouit.
Oui, c'est la preuve qu'on peut pas légiférer contre 80% de l'opinion avec une assemblée à l'époque qui n'était pas favorable. Je rappelle que ça avait été adopté par 49-3 avec une opposition unanime des syndicats. On voit bien que alors que c'est une histoire qui date de 2023, en 2025, fin 2025, on en parle encore et finalement on aboutit à sa suspension.
Pour vous, c'est le signe que la démocratie française peut fonctionner?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un compromis qui n'avait pas existé et qu'une partie des députés macronistes ont été obligés de s'abstenir parce qu'ils ont bien compris qu'en fait, cette position-là n'était jamais passée et qu'ils ne pourraient pas avancer s'ils s'obstinaient. Donc oui, ça donne en tout cas le signe que des compromis sur un sujet qui touche profondément les Français sont possibles.
Alors reste évidemment une question, on ne sait toujours pas comment on va la financer, cette suspension.
Oui, alors là, la question du budget, c'est un autre débat. La question, et finalement, c'est vrai que c'est le vote le plus politique qui existe, c'est de savoir à qui on prend l'argent, à qui on le donne. Quand on met au regard ces 400 millions du refus de la taxe Zuckman, des 210 milliards d'aides aux entreprises, dont certaines sont vraiment à interroger, on se dit que le budget global, l'équilibre global, on peut le trouver. C'est une question à la fois de volonté politique et de choix. Est-ce qu'on veut plus de justice sociale ou est-ce qu'on veut plus privilégier quelques-uns ?
Alors la suspension, elle va encore devoir être validée par le Sénat. Le texte arrive au Sénat aujourd'hui, qui promet déjà de le détricoter. Il est renvoyé, en fait, ce débat à la prochaine présidentielle.
Oui, clairement. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que finalement ça valide simplement un décalage se disent que d'emblée, c'est perdu en 2027. Ce qui est intéressant, c'est qu'un vote qui a été fait en 2023 va animer les débats de la présidentielle. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, comme je le disais, c'est un vote qui met au cœur du débat politique la question du modèle social qu'on veut pour notre pays. D'ailleurs, ceux qui pensaient que les jeunes ne se mobiliseraient pas contre la réforme des retraites, à l'époque, disaient, c'est tellement loin pour eux, ça ne les concerne pas. On a vu qu'il y a eu une grande partie de la mobilisation qui était liée au soutien des gens qui avaient travaillé longtemps et qui allaient voir la retraite s'éloigner encore un peu. Et d'ailleurs, il se trouve que je connais des gens qui vont pouvoir bénéficier de cette suspension. Ils ont commencé à travailler à 16 ans dans des métiers pénibles. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle concrètement pour des gens qui vivent aujourd'hui.
Est-ce qu'il faut repenser complètement le système de retraite ? C'est-à-dire ne pas être juste dans des ajustements ? Certains commencent à réfléchir à l'idée d'un peu de capitalisation, voire même beaucoup de capitalisation, c'est 1000 euros dès la naissance que propose Gabriel Attal. Est-ce qu'il faut repenser l'organisation, la structure des retraites ?
Alors, sur quel modèle social, c'est une bonne question. Sur les besoins de main-d'œuvre qui vont arriver parce que notre pyramide des âges évolue, ça aussi, ce sera un autre débat. Sur la question de la capitalisation, dans un univers où notamment les systèmes financiers ont été parfois ébranlés, où on a vécu des crises, c'est une prise de risque qui peut être très importante pour un certain nombre de personnes. La solidarité au moment M entre l'ensemble de la population, que ce soit sur les questions de santé, les questions de vieillissement, je pense que c'est le modèle le plus robuste et c'est celui qui est plutôt envié et regardé avec intérêt à l'étranger de la part de la France.
Merci Cécile, Cécile Duflo, la voix de gauche d'RMC. Demain, place au débat droite-gauche. Cécile, vous serez face à Charles Consigny à 7h50. Pour l'heure, il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal, à la une du journal de 8h. C'est aujourd'hui à 11h30 que commencent les cérémonies de commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Une chorale de survivants va participer aux cérémonies. RMC les a rencontrés, vous les entendrez dans un instant. Et puis du côté de la météo, c'est un pic de douceur sur toute la France. 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le souvenir de l'horreur il y a 10 ans en France. Journée d'hommage qui commence à Paris et Saint-Denis. Hommage aux victimes des attaques du 13 novembre 2015. Vous verrez que la menace terroriste s'est durcie. Et c'est à même changé depuis. Le budget de la sécurité sociale, désormais entre les mains des sénateurs qui entendent bien le détricoter, on va vous expliquer. Et les Bleus du foot qui peuvent se qualifier dès ce soir pour la Coupe du Monde 2026. Ce sera à condition de battre l'Ukraine au Parc des Princes.
C'est une longue journée d'hommage qui commence.
Oui, des cérémonies sont prévues toute la journée à Paris et à Saint-Denis sur les sites des attaques visées il y a 10 ans. Les pires attentats terroristes perpétrés en France, 132 morts. Une nuit qui nous hante encore, écrit la presse ce matin. Cette journée s'achèvera à 18h par l'inauguration d'un jardin mémoriel derrière la mairie de Paris. Et alors un des temps forts de la cérémonie sera assurément d'entendre les chants de rescapés et de proches de victimes des attentats qui, 10 ans après l'horreur, ont formé une chorale. Marion Gauthier en a rencontré quelques-uns pour RMC.
Le sourire aux lèvres et la tendresse dans les yeux. Autour de la table, ils sont 4 chanteurs de salle de bain.
Et voilà, on répète chez nous, on répète dans notre douche.
Au bureau aussi.
Il y a eu l'incrédulité, puis il y a eu ces répétitions, la fierté.
Il y a eu une vraie émotion collective, des rires, des larmes.
Olivier rougit.
C'était un moment extrêmement fort. Même là, en y repensant, il y a un peu d'émotion qui monte. Mais
C'est lui qui a lancé ce cœur avec Alix.
Le 13 novembre, c'était la laideur à l'état pur, quoi. L'idée de la chorale, c'était créer quelque chose de beau, de toute cette laideur qu'on avait vue, cette violence qu'on nous avait infligée.
Deux chansons tenues secrètes pour parler d'unité, de force.
J'ai horreur des chorales, c'est un truc.
Les Christians s'est laissé surprendre.
Depuis le Bataclan, je crois que j'ai fait 2 concerts, co-spectateur, collé à l'issue de secours. Bah, d'un coup, ça revit pour moi, c'est quelque part une renaissance de faire un truc collectif avec de la musique. Voilà, c'est pour ça que je parle de magie.
De la joie dans ce cœur du 13 et l'envie de la partager après 10 ans de lutte.
Parce que je pense que pendant longtemps, on ne se permet pas d'être joyeux.
Aurore a perdu l'homme de sa vie, Emmanuel.
Et là, en fait, il n'y a plus de culpabilité. Enfin, pour moi, il n'y en a plus. Joyeuse d'être là, joyeuse de chanter pour Emmanuel et pour tous les autres, et joyeuse de chanter pour la vie, en fait. D'une seule voix, on leur dit, vous n'avez pas gagné, les gars, en fait.
Ils chanteront ce soir devant 1500 personnes, entourées des noms des disparus.
Alors, face au chant, face à la Tour Eiffel aussi, qui s'est illuminée aux couleurs de la France hier soir, il y a la menace terroriste. Julie Brault, du service police-justice à RMC, elle reste à un niveau très élevé. Elle s'est même durcie. C'est ce que dit ce matin dans le journal Le Parisien, le patron du parquet antiterroriste français.
Oui, car aujourd'hui, plus besoin de partir en Syrie pour se radicaliser. L'autoradicalisation, depuis chez soi, sur un simple téléphone, explose, alerte Olivier Christen, le patron du parquet national antiterroriste. Ces 10 dernières années, les groupes djihadistes, notamment Daesh, ont modernisé leur propagande, dit-il, séduisant de plus en plus de jeunes. 19 mineurs ont été mis en examen pour des actes de terrorisme l'année dernière, contre seulement 2-3 avant 2023. Des jeunes attirés par une propagande djihadiste très présente sur les réseaux sociaux et qui s'adaptent aux évolutions technologiques. L'intelligence artificielle permet notamment aux groupes terroristes de créer des contenus, je cite, très professionnels, avec des images chocs. Et puis, le discours islamiste s'adapte aussi à l'actualité politique de la France. La guerre au Proche-Orient est aujourd'hui largement instrumentalisée par la propagande djihadiste qui a durci son discours antisémite.
Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera l'invité d'Apolline de Malherbe tout à l'heure à 8h30 sur RMC en ce jour anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. À 8h04 sur RMC, Boualem Sansal est en Allemagne ce matin. L'écrivain franco-algérien de 81 ans qui est arrivé hier soir, il a été hospitalisé à Berlin dans la foulée, quelques heures seulement après avoir été gracié par l'Algérie où il purgeait depuis un an une peine de prison pour atteinte à l'unité nationale. Changement de ton diplomatique d'ailleurs, Emmanuel Macron remercie l'Allemagne et l'Algérie. Il se dit disponible, le président, à poursuivre le dialogue avec les Algériens. Mais ce sont bien les Allemands qui ont obtenu la libération de Boualem Sansal. L'Allemagne n'est pas la France. Pourquoi tient Noël Lenoir ce matin sur RMC, la présidente du comité de soutien de l'écrivain?
L'Allemagne a des liens historiques. Ensuite, il y a des liens économiques, énergétiques, que nous n'avons pas, parce que l'énergie algérienne représente un peu moins de 7% de nos ressources énergétiques. Troisièmement, il ne faut pas oublier que M. Tebboune, le président algérien, a été sauvé par des médecins allemands lorsqu'il a eu un Covid extrêmement sérieux et qu'il est allé se faire soigner en Allemagne. Et à chaque fois qu'il a mal, comme nous a-t-on dit récemment, il avait mal aux pieds, eh bien il est allé en Allemagne et a disparu pendant plusieurs semaines de l'Algérie.
C'est désormais le Sénat qui va examiner le budget de la Sécurité sociale pour l'an prochain. Les députés n'ont pas eu le temps de l'examiner en entier hier soir. Le temps imparti était écoulé, mais c'est bien leur version amendée qui a été transmise aux sénateurs, avec donc dans ce texte la suspension qui a été votée de la réforme des retraites jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Cyprien Pézeril du service politique à RMC, le feuilleton de la suspension de la réforme des retraites n'est pas terminée.
Oui, le président du Sénat, Gérard Larcher, a prévenu, il a bien l'intention de rétablir la réforme des retraites dès les prochains jours, grâce à une large majorité de sénateurs de droite. Au-delà de cette réforme emblématique, il devrait aussi détricoter des mesures déjà votées par les députés, notamment sur la contribution des plus riches. Les sénateurs LR vont se faire plaisir, mais j'ai appris en cours de droit que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, minimise un socialiste. Cet examen du budget, celui de l'État comme celui de la sécurité sociale, n'en est encore qu'au début du parcours. Et le chemin vers une adoption apparaît toujours sinueux, d'autant que beaucoup s'inquiètent de dépenses non financées. Aujourd'hui encore, les députés qui reprennent l'examen du budget de l'État devraient retoquer la proposition du gouvernement de supprimer l'abattement fiscal de 10% sur les retraités. Ce sont donc des milliards à trouver et la crainte de finances publiques toujours plus dégradée. L'objectif d'un déficit à 4,7% du PIB et pour leur tenue veut pourtant rassurer la ministre des Comptes publics.
Dans ce contexte politique et économique, légère hausse de 0,1 point du taux de chômage au troisième trimestre qui s'établit désormais à 7,7% de la population active. On vous en parlait en début de semaine, ce tournage de clip de rap à Rieux-la-Pape dans la banlieue de Lyon. Ce tir de mortier d'artifice qui avait incendié la façade d'un immeuble, une quarantaine de personnes qui ont perdu leur logement dans cette histoire. Eh bien, on apprend ce matin qu'il y a eu 4 interpellations, dont le rappeur. Voilà ce que l'on apprend donc ce matin à Rieux-la-Pape. Le football avec les Bleus du foot qui peuvent donc se qualifier ce soir pour la Coupe du Monde de l'année prochaine face à l'Ukraine. Ils joueront à 20h45, on vivra ça sur RMC au Parc des Princes. C'est bien parti quand même pour se qualifier, mais pour ça faut gagner, Valentin Jamin.
Oui, avec 10 points pris sur 12 possibles, les Bleus n'ont qu'une idée en tête, finir le travail avec la manière face à l'Ukraine pour s'éviter de trembler contre l'Azerbaïdjan dimanche, annonce le capitaine Kylian Mbappé.
L'objectif, il est clair. Quand tu joues un match à domicile avec l'équipe nationale, t'envisages jamais de contre-performance. Il y a une pression supplémentaire parce qu'il y a la qualif au bout. Il n'y a qu'une seule option, c'est la victoire. Je pense qu'il faudra être courageux et j'espère qu'il y aura une belle ambiance jusqu'à la fin du match et après même, parce que ça signifiera qu'on sera qualifié et que ce sera une première étape de franchie.
Au match aller, les Bleus avaient souffert avant de gagner. Didier Deschamps lui connaît ses moments, il peut qualifier la France pour une 7e grande compétition de suite depuis ses débuts comme sélectionneur.
Que celui-là, il ait une importance, il ne faut pas pour autant perdre la sérénité et la tranquillité. Il faut apprécier chaque moment et des préparations de matchs comme ça qui est décisif parce que ça amène au niveau émotionnel. Les matchs, il faut toujours les gagner. Gérer le moment présent et surtout l'apprécier.
Avant de passer la main, après le Mondial, il reste animé par la quête d'une 3e étoile pour les Bleus.
Voilà, et le match, puis l'after, puis le casar enchaîné jusqu'à 1h30 du matin. Vous vivrez tout ça sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet et je voudrais vous remercier parce que un mot des audiences radio qui ont été dévoilées par Médiamétrie ce matin pour la période septembre-octobre. RMC, on voulait vous dire un immense merci pour votre fidélité parce que grâce à vous, RMC se classe 4e radio de France. Vous êtes 2,8 millions à nous écouter tous les jours à la radio.
Et à titre personnel, un merci particulier, puisque je suis très fière d'accueillir 67 000 nouveaux auditeurs dans Apolline Matin depuis la rentrée. Nous vous disons tous merci. Nous sommes aussi première radio de France sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Alors pour tout ça, un très grand merci au nom d'RMC. On va tout de suite au 32-16. C'est d'ailleurs aussi vous qui faites vivre RMC. Bonjour Nora.
Oui, bonjour.
Nora, vous êtes à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Vous vouliez intervenir parce que vous êtes agent de nettoyage, je crois, dans un lycée, et vous avez entendu cette étude qui dit que votre santé, elle est menacée par votre boulot, mal de dos, horaires décalés, exposition à des produits chimiques. Racontez-nous.
Oui, malheureusement, ce métier engendre beaucoup de maladies professionnelles. Par contre, moi, je travaille depuis un certain temps au lycée. Ouais. Dans les lycées, ça veut dire pour la région Île-de-France. Mm-hmm. C'est Valérie Pécresse. Elle nous a mis des chariots à disposition parce qu'elle a vu la catastrophe qu'il y avait dans les lycées. Ouais. Elle nous a mis des chariots à disposition ergonomiques avec balai ergonomique et tout. Enfin, ça s'appelle la méthode d'imprégnation.
D'accord.
Qui permet d'avoir moins d'eau, moins de produits. Ouais. Et on a beaucoup de formations par rapport à ça.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez l'impression que les choses se sont améliorées pour vous au quotidien grâce à cette nouvelle méthode et à ces nouveaux produits qu'on a mis à votre disposition.
Dans les lycées.
Dans les lycées. Parce
que j'ai travaillé un petit peu au niveau des primaires maternelles, c'est pas ça encore.
C'est pas encore le cas. Mais si vous témoignez, aujourd'hui, votre condition, elle s'est améliorée.
Moi, quand je suis arrivée, c'était au moment où je suis restée un mois avec l'ancien matériel.
Ouais.
C'est au moment où on a mis à disposition les chariots. Ça veut dire en 2021, je crois, pour moi, dans les lycées où j'étais. Et franchement, ça nous permet de mettre moins de produits, moins d'eau, ça veut dire économique. Et au niveau, si on respecte tout, que ce soit au niveau des gants, parce que nous avons quand même des produits un peu agressifs.
Bah oui.
Ouais. Voilà,
voilà. Donc aujourd'hui, clairement, vous en témoignez et espérons que les autres régions suivront. Merci beaucoup, Nora, de nous avoir appelé ce matin. Donc, il est 8h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h15 et c'est l'heure de parler d'économie sur RMC BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Sur RMC, RMC Story, vous l'aurez compris. Bonjour Emmanuel Le Chypre. Les
Bonjour
aides financières accordées aux médecins qui s'installent dans les déserts médicaux, ça marche pas.
Non, il existe aujourd'hui au moins une quinzaine de dispositifs différents pour attirer les médecins dans les zones où on en manque, sous forme de subventions directes, d'incitations fiscales. Et encore là, on ne prend même pas en compte les aides distribuées au niveau local. Hors aides locales, ces aides représentent plus de 200 millions d'euros. Elles ont profité beaucoup à 3 000 médecins, un peu à 12 000 médecins et à 2 000 étudiants. Or, il y a 240 000 médecins en France, donc c'est trop peu et ça coûte trop cher, nous dit la Cour des comptes.
Pourquoi est-ce que les médecins ne sont pas plus intéressés que ça?
D'abord parce qu'il y a un problème d'efficacité et de lisibilité de ces aides. Les dispositifs se juxtaposent sans coordination entre l'État, l'assurance maladie ou les collectivités locales. On a par exemple les zones d'éligibilité pour certaines aides qui ne sont pas les mêmes en fonction de l'interlocuteur que vous avez. Et puis surtout, l'argent n'est pas la principale motivation pour s'installer. Les jeunes médecins, ils veulent avant tout un environnement professionnel qui corresponde aussi à leur qualité de vie personnelle. Il faut qu'il y ait un plateau technique, ils ont envie de travailler collectivement, et puis ils ont envie aussi d'avoir des endroits où il y a des écoles, etc., etc. Il y a que les bourses étudiantes avec le engagement de services publics qui ont un vrai impact positif.
Et d'ailleurs, ces dispositifs d'aide n'ont pas enrayé la progression des déserts médicaux. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre. Il est 8h16 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous. RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud de Manche qui est avec nous, salut Arnaud.
Bonjour à tous. Les amis, félicitations, 67 000 nouveaux auditeurs, dites donc, boum. Et on a une deuxième bonne nouvelle, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est sorti des geôles algériennes, une journée qui nous rappelle le jour glorieux où Rabdel Chemoul, l'écrivain, est sorti des geôles fascistes. Non mais c'est une bonne nouvelle Boualem Sansal, ça veut dire qu'on peut enfin arrêter de faire semblant d'avoir déjà lu un de ses livres, c'est cool. 362 jours en prison, le pauvre, ça fait quand même un an à bouffer des yaourts. Niveau calcium, d'ailleurs, il est à un stade exceptionnelles maintenant. Ses dents, c'est de l'adamantium. C'est les griffes de Wolverine. Encore 3 mois, il pouvait bouffer les barreaux. Sinon, aujourd'hui, on commémore les 10 ans des attentats du 13 novembre. Eh ben, dites donc, hein. Après l'heure d'hiver, la Toussaint, le 11 novembre, chaque année, c'est plus triste, novembre. Un jour, le pire est à venir, en plus. Hein. Puisque jeudi prochain, Apolline, c'est le Beaujolais nouveau.
Oh non.
Eh oui. Oh, non seulement on sera déprimé, mais en plus on aura mal à la tête. Si novembre était un people, ce serait le fils d'Elisabeth Borne et Michel Houellebecq.
Bon, j'adore cette phrase.
Donc voilà, il y a 10 ans, à la même heure, le 13 novembre, tout allait bien, on était encore le cœur léger, notre seul problème c'était d'avoir François Hollande à l'Élysée, c'était le bon vieux temps, et le soir... Tout a basculé dans l'horreur. Non seulement Hollande était président, mais en plus, une horde de sauvages nous attaquait, nous et nos valeurs. Les plus chouettes, nos valeurs, les bars, les concerts, le heavy metal, la fête, le foot. Et d'ailleurs, ce soir, il y a foot. Il y a France-Ukraine. Ils ont fait ça en commémoration. Alors, contre n'importe quel autre pays, j'aurais pas tiqué. Mais alors là, rajouter de la guerre en Ukraine aux commémorations du 13 novembre, je trouve que la journée est chargée. Tu vas voir que le coup d'envoi, il va être donné par les parents du petit Grégory.
Oh non.
Avec Philippe Croizon en pom-pom girl.
Oh.
Et la Marseillaise chantée par le chœur des enfants de Bétarame.
Oh.
Avec comme leader Christine and the Queen. Qui va dire, non, faut arrêter de me mégenrer. Maintenant, je suis Chris. En fait, je suis Raïm. En fait, je suis Redcar. En fait, je merde. Point E, point S. Ça nous promet une bonne soirée l'exomile, tout ça. Didier Deschamps, il trouve ça de mauvais goût de jouer ce soir. Et pourtant, en termes de mauvais goût, il est vacciné, lui. Hein. 40 ans qu'il est dans le foot, il en a vu des trucs. Alors Salah Abdeslam, de son côté, lui, envisage une démarche de justice restaurative avec des victimes du 13 novembre.
Ça, ouais.
Alors la justice restaurative, c'est pas manger en prison. Hein. C'est les victimes qui rencontrent des coupables.
Ouais.
Je le recommande pas dans toutes les situations.
Non.
Hein. Pas de « j'aimerais m'excuser auprès du petit Matteo, il peut revenir ». Non, monsieur Barbarin, c'est pas possible. Sarkozy, avec toutes ses affaires, hein, s'il fait de la justice restaurative, faut qu'il mette en place un numéro vert. Vous êtes bien en relation avec le standard du cabinet des plaintes contre Nicolas Sarkozy. Vous avez été victime dans l'affaire Big Malion, tapez 1. Vous êtes de la famille de Muammar Kadhafi, tapez 2. Vous êtes de la famille de Liliane Bettencourt, tapez 3. Si vous êtes le vrai Paul Bismuth, tapez 4. Si vous voulez vous faire rembourser le dernier album de Carla Bruni, veuillez rappeler ultérieurement.
Jean-Jacques Goldman a écrit une lettre aux Français pour le 11 novembre.
Oui, tous les fans de Goldman, ils étaient au taquet depuis des années, ils attendaient un nouveau tube. Là, ils ont su qu'il y avait un truc. Alors, ils ont loué une salle, ils ont organisé toute une soirée. Alors, cette nouvelle chanson c'est une lettre. C'est une lettre sur le 11 novembre. Double déception. En fait, Goldman, il est ambassadeur pour une association pour les anciens combattants. Un peu comme moi. Et oui, puisque je suis le parrain de la FOSA, c'est la Fondation des œuvres sociales de l'air pour les orphelins de l'armée de l'air et de l'aviation civile.
Ah
parfaitement.
Oui. Ah, vous êtes,
ça nous fait un point commun avec Jean-Jacques. Ça nous a hyper rapprochés, en fait, avec Jean-Jacques. Maintenant, voilà, j'écoute un peu plus sa musique. Lui, je pense qu'il écoute les chroniques. Il fait partie des 67 000 nouveaux auditeurs.
Voilà.
Voilà. Donc, c'est pour l'armée qu'il a fait sa lettre. C'est bien, les légionnaires, ça va les changer de « tiens, voilà du boudin, c'est cool ». Alors, sachez qu'après la lettre de Goldman sur les poilus, RMC Gold diffusera aujourd'hui la lettre de Gold sur les poilus. Car sur RMC Gold, on est fan de Gold. Et vous êtes bien sur RMC Gold. Et à l'instant, on a écouté Gold avec son dernier tube. Et ce matin, nous avons une exclusivité sur RMC Gold. La lettre de Gold aux poilus, aux anciens combattants, aux militaires, dans le cul Jean-Jacques Goldman. Car Gold sait aussi écrire des lettres. Une lettre solennelle. Et pour lui donner plus de relief, grâce à la magie de l'intelligence artificielle, elle sera lue par la voix du général de Gaulle. Ils sont partis pour gagner, mais ils ne sont jamais rentrés. Les rugissants du Pacifique, les remous des torrents d'Afrique. Ohé, ohé, capitaine,
abandonné.
C'était le général de Gold et à demain.
Arnaud de Manche qu'on retrouve à tout moment en podcast sur RMC et rmc.fr. Dans un instant, l'invité du face-à-face, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Libération de Boualem Sansal, commémoration des attentats du 13 novembre et surtout où en est la menace terroriste aujourd'hui. Beaucoup de questions pour Laurent Nunez, ça se passe sur RMC et BFM TV dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Vous êtes ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin, au matin des journées de cérémonie en mémoire du 13 novembre 2015. On va revenir évidemment non seulement sur ces cérémonies, mais sur l'état de la menace aujourd'hui. Mais d'abord, Laurent Nunez, après un an d'emprisonnement, Boualem Sansal est enfin libre. Il est libre et il est arrivé en Allemagne hier soir. D'abord, quel rôle a joué l'Allemagne ?
D'abord, je me réjouis évidemment de cette libération, le geste d'humanité du président Tebboune, hein, qui a donc accordé sa grâce. Le président de la République a eu l'occasion évidemment d'échanger avec le président Tebboune, avec le président allemand, hein, comme vous venez de le citer. L'Allemagne a joué un rôle important, hein, le rôle d'un tiers de confiance. C'était important compte tenu de la dégradation de ce qu'étaient les relations entre la France et l'Algérie, du niveau que cela avait atteint. Donc il était important évidemment qu'on ait ce tiers de confiance qui a joué un rôle important, mais au même titre évidemment que le président de la République Emmanuel Macron.
Ils ont travaillé ensemble.
Qui, tout au long de l'année écoulée, n'a cessé évidemment de rappeler la position de la France, qui était celle d'avoir un dialogue, certes exigeant, mais d'avoir un dialogue. Voilà, donc et, évidemment, enfin, qui peut penser que la France n'a pas joué également un rôle dans cette affaire, hein, voilà. Donc, voilà.
Vous avez travaillé ensemble, Allemagne et France, main dans la main.
Non, mais bien sûr, voilà. Il y avait un tiers de confiance. Le président de la République a remercié le président allemand. C'est évidemment extrêmement important. Les actions qui ont été engagées par la diplomatie allemande, par le président allemand. Mais évidemment, comme vous l'imaginez, la France a joué un rôle et la position qui a été la nôtre ces dernières semaines est importante, c'est-à-dire cette expression d'une volonté de réengager un dialogue qui est un dialogue exigeant, hein, je le redis, avec les autorités algériennes. Je pense à jouer évidemment aussi un rôle dans cette affaire.
Réengager un dialogue, on va y revenir parce que c'est aussi la méthode que vous avez prônée, mais je suis quand même surprise par la première phrase que vous dites, un geste d'humanité. Vous remerciez le président Tebboune pour ce geste d'humanité, c'est quand même aussi le président Tebboune qui ne s'était pas opposé initialement au fait que cet homme innocent soit condamné.
Mais non, bien sûr,
et
mais
enfermé.
Il vient d'être gracié, donc il a été libéré, il est arrivé en Allemagne, voilà. Donc
mais gracié, c'est vrai que c'est toujours étrange d'accepter l'idée de gracié, parce que gracié veut dire qu'il serait coupable.
En tout cas, je redis ce que je vous dis, c'est un geste d'humanité, voilà. Et donc nous en réjouissons.
Vous dites
très
ça
clairement.
Vous dites ça pour me répondre à moi, ou vous dites ça pour qu'il vous entende vous le dire?
Non, je vous réponds à vous. Voilà, je vous réponds à vous. Et nous allons maintenant. Il faut qu'on poursuive ce dialogue avec l'Algérie. Il faut réengager ce dialogue, mais dans des conditions d'exigence. On a beaucoup de choses à demander, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire ce matin, c'est que je l'ai dit, je le redis. Voilà, la stratégie du bras de fer ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Il faut être dans une démarche qui soit une démarche de dialogue. Encore une fois, je le redis, exigeante. On a beaucoup de choses à demander à l'Algérie, notamment pour ce qui me concerne, pour le canal sécuritaire. On a évidemment beaucoup de choses à demander à l'Algérie.
C'est clairement une autre méthode que celle de votre prédécesseur, Bruno Retailleau, qui prenait davantage, en effet, le bras de fer. Vous dites que ça n'a pas marché. Est-ce que pour vous, la libération de Boualem Sansal est le premier signal que ce dialogue, que cette reprise de dialogue, comme vous dites, fonctionne?
Clairement, oui. Clairement, oui. Voilà, maintenant, on attend d'autres signaux. Voilà, vous savez, le ministre de l'Intérieur algérien m'a invité à me rendre en Algérie, donc la probabilité que je m'y rende, elle est quand même très forte.
Vous irez.
Donc, on va réengager des canaux sécuritaires, et je m'y rendrai, la probabilité est très forte, parce qu'à un moment, il faut que les deux ministres se parlent, on engage une discussion plus stratégique, on définit les thématiques sur lesquelles on veut réenclencher. Je vous rappelle qu'on n'a plus de contact avec l'Algérie, on n'a plus de contact sécuritaire, ça veut dire que la direction générale de la gendarmerie nationale, de la police nationale, et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, tous trois services placés sous mon autorité, n'ont plus d'échanges opérationnel. Donc voilà, il faut qu'on réenclenche ce dialogue sécuritaire. C'est important pour la sécurité de nos
concitoyens. Donc vous irez, vous nous le dites ce matin, vous irez, vous accepterez l'invitation en effet de votre homologue algérien. Vous avez souvent parlé effectivement du fait qu'il n'y avait plus de contact, que c'était un problème. Il y a également cette question des OQTF qui n'obtiennent pas de laissez-passer. Votre prédécesseur, justement Bruno Retailleau, insistait beaucoup sur ce point. Il parlait notamment de l'attentat de Mulhouse qui, d'après lui, aurait pu être évité si l'Algérie avait accepté ce qu'elle a refusé à plusieurs reprises de reprendre ce ressortissant sous le coup d'une OQTF. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous dire que certaines OQTF de nationalité algérienne sont effectivement acceptées par l'Algérie?
Non, je ne vous dirai pas ça. D'abord, la discussion, moi, pour la partie qui me concerne comme ministre de l'Intérieur, elle porte sur deux thématiques. C'est la sécurité, d'abord, la lutte contre le terrorisme. L'antiterrorisme, c'est important. C'est très important. Évidemment, la lutte contre la criminalité organisée, la sécurité, et puis il y a le volet migratoire, évidemment. Donc, et il y a la question des OQTF qui demeure un problème. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, mais c'est un des sujets que je mettrai évidemment sur la table avec mon homologue et que les services font déjà commencer
vous
à mettre sur la table.
Vous n'avez pas d'agenda à ce stade? Vous n'avez pas de date?
Je n'ai pas d'agenda. Voilà. Donc, les choses avancent.
Je reste
dans la même posture qui est celle d'être dans le dialogue, mais un dialogue exigeant, encore une fois. On a beaucoup de choses à attendre de l'Algérie. Voilà.
Est-ce que vous avez des nouvelles de Christophe Glaise?
Non, je n'ai pas de nouvelles, mais enfin, on connaît la procédure. Vous savez qu'il y a un appel qui devrait être jugé maintenant, dans quelques jours.
Et donc, vous pouvez espérer que ça ne s'arrête pas à la libération de Boualem Sansal?
Nous l'espérons tous. Voilà, nous l'espérons tous. Et la France agit évidemment également en ce sens.
Donc, la France agit. Vous ne pouvez pas nous en dire plus
non,
à ce stade,
plus, voilà.
J'imagine.
Il y a des canaux diplomatiques, voilà. Donc on a toujours été dans cette volonté forte de dialogue constructif, exigeant.
Laurent Nunez, nous sommes donc aujourd'hui le 13 novembre. C'est les commémorations des attentats du 13 novembre 2015. On va parler évidemment de la commémoration et de l'accompagnement de tous ceux qui ont traversé ces attentats. Mais au jour où on se parle, en ce matin de cette journée, quel est l'état de la menace?
L'état de la menace, elle est toujours très élevée. Vous savez, voilà, on l'a dit, redit. Le type d'attaque comme celle qu'on a connue, malheureusement, il y a 10 ans, le 13 novembre, est moins probable. Une équipe projetée qui vient avec des djihadistes venus de Syrie, d'Irak, projetée sur le territoire national pour commettre un attentat est moins probable parce que le niveau de coopération entre tous les services de renseignement s'est renforcé, y compris à l'international. L'affaiblissement de l'État islamique fait que c'est beaucoup moins probable. Maintenant, la menace reste élevée parce qu'elle est toujours très endogène, avec des individus présents sur le territoire national qui se radicalisent très vite et qui fomentent des projets d'action violente. C'est exactement ce qu'on a vu avec le dernier attentat déjoué. 3 jeunes femmes, 18, 19 ans, 21 ans, qui fomentent un projet d'action violente avec une radicalisation ultra rapide, ce qui rend la tâche des services de renseignement, que je veux saluer, notamment la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, l'ensemble des services de la communauté française du renseignement, ce qui rend leur tâche plus compliquée, parce que la radicalisation est express et les projets se passent en vase clos, et donc c'est de plus en plus compliqué à détecter, mais ils font un travail remarquable et ils parviennent à déjouer les attentats, et on l'a vu encore avec le dernier attentat déjoué.
Combien d'attentats déjoués en cette année 2025?
C'est le sixième. C'est le sixième, celui dont je viens de parler, et le sixième attentat déjoué.
Combien de personnes sont, en ce moment même, j'allais dire, dans vos radars? À quels signes vous êtes particulièrement attentifs globalement, et peut-être au matin de cette journée particulière?
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement un certain nombre d'objectifs connus pour la radicalisation violente qui sont suivis. Vous savez que, justement, depuis 2015, on a créé des fichiers, on a créé des procédures de suivi, des techniques de renseignement qui permettent de les suivre, des mesures qui ont été instaurées par une loi de 2017, reconduite en 2021, qui permet de les j'ouvre les guillemets parce que c'est plus le terme juridique, mais de les assigner à résidence, de procéder à des visites domiciliaires, qui sont des perquisitions le matin pour aller vérifier qu'il n'y a pas d'armes, qu'il n'y a pas de projet d'action violente. Donc on dispose de moyens qui permettent de suivre ces individus. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas connaissance d'une menace particulière. Il n'y a pas de connaissance d'un projet d'attentat. Mais c'est de ma responsabilité comme ministre de l'Intérieur de dire attention, la symbolique qu'aurait une action aujourd'hui serait tellement forte qu'on ne peut pas exclure qu'un certain nombre d'individus y pensent. Et donc c'est pour ça qu'on a rehaussé le niveau à la fois des services de renseignement qui sont plus attentifs sur les objectifs, les individus dont ils ont connaissance, et puis sur la voie publique, sur l'espace public, on a renforcé les dispositifs de sécurité sur l'espace
donc
public.
Donc c'est une journée avec une vigilance particulière. Il y a ce match ce soir. Certains, y compris pour des questions presque de sensibilité, Didier Deschamps lui-même le disait, auraient aimé qu'il n'y ait pas ce match ce soir. De fait, ce sera le cas. Ce ne sera pas au Stade de France, mais au Parc des Princes. Est-ce que vous prenez des mesures particulières ?
Oui, il y a un gros dispositif de sécurité qu'a mis en place le préfet de police. Il y a un gros dispositif de sécurité pour ce match. Après, vous savez, sur ce match, il y a deux façons de voir les choses. Il arrive le jour il a lieu le jour des commémorations, donc il y aura une mobilisation très forte des forces de sécurité intérieure. Et ça, c'est un argument technique. Moi, comme ministre de l'Intérieur, évidemment, j'y suis sensible. Cette mobilisation des forces à qui on demande tant et tant depuis des semaines, des mois. Mais je sais qu'au fond d'eux-mêmes, nos forces de sécurité intérieure savent bien que ce match se déroule aujourd'hui, c'est un symbole fort. Ça veut dire qu'on continue à exister, on continue à vivre et nous ne sommes pas atteints par les actes terroristes. Voilà, ce soir, il y a un match de football qui va se dérouler, qui va réunir au Parc des Princes plus de 40 000 personnes. Et voilà, on continue à vivre.
C'en est pour vous la symbolique.
Exactement.
Laurent Nunez, un membre présumé du Hamas, a été arrêté mardi soir par les autorités allemandes. Il aurait lui-même acquis des armes pour commettre des attentats contre des installations israéliennes et juives. Ça arrive un mois et demi après l'arrestation de 3 autres membres présumés du Hamas également en Allemagne. Est-ce que vous travaillez avec nos voisins ? Est-ce que la lutte contre le terrorisme est véritablement sans frontières ?
Elle est sans frontières. Elle est sans frontières et principalement beaucoup depuis 2015, c'était le cas avant. Mais en 2015, vous avez quand même un groupe de terroristes qui arrivent de Syrie, d'Irak, qui stationnent en Belgique pendant un temps et puis qui nous attaquent. Voilà, donc tout ça maintenant, nous avons rehaussé le niveau de coopération entre tous les États, à l'échelle évidemment des pays de l'Europe, mais pas seulement, avec les grands pays, je pense évidemment au Royaume-Uni, aux États-Unis, avec le partenaire israélien. En matière de lutte antiterrorisme, l'échange avec les États, l'échange d'informations est extrêmement important. Et évidemment, nous travaillons très bien avec les services allemands, et c'est notamment la DGSI qui a toutes ces relations avec les partenaires.
Vous le disiez, les services réussissent le mieux possible et autant que faire se peut à empêcher les passages à l'acte ou à l'action. Vous avez peut-être entendu l'interrogation qui vous était également adressée par Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, hier à l'Assemblée. 10 ans après, dit-il, sans doute nous gagnons la bataille de la vie, mais 10 ans après, avons-nous vraiment gagné la bataille contre l'islamisme ? Avons-nous pris bonne mesure de l'entrisme des frères musulmans ? Qu'est-ce que vous répondez ?
Et Michel Barnier a raison, il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour lutter contre le terrorisme, et il est performant. Et en ce jour anniversaire, moi je veux saluer l'action qui a été celle du président Hollande en 2015, de Manuel Valls, puis de Bernard Cazeneuve, du président de la République Emmanuel Macron, qui a fait rentrer dans le droit positif toutes ces mesures qui avaient été prises à l'époque, entre 2015 et 2017, dans le cadre de l'état d'urgence. Et on a maintenant un arsenal juridique, technique, budgétaire, qui est à la hauteur contre le terrorisme. Le risque zéro n'existera jamais, ceux qui le disent mentent, mais on a un arsenal qui est à la hauteur. Après, on a engagé d'autres combats depuis, et notamment le combat contre l'islam politique, qui a pris la forme de séparatisme, c'est-à-dire ces personnes qui essaient de vous expliquer qu'on peut vivre au sein de la République avec des lois spéciales qui dérogent finalement aux lois de la République. C'est ce qu'on appelle le séparatisme.
Qui serait plus inspiré de la charia que des lois.
Absolument, c'est l'islam politique. Donc pour le séparatisme, on a engagé des actions. Il y a eu une loi en 2021 qui permet de fermer des lieux de culte, qui permet d'effectuer certains contrôles de des personnes ou des associations qui prônent ce type de discours. Et puis il y a une troisième étape qui a été lancée, qui a d'ailleurs été demandée par le président de la République ces derniers mois, qui a été préparée d'ailleurs, je tiens à le dire, par Bruno Retailleau, mon prédécesseur, qui a travaillé sur ce sujet, que je vais évidemment reprendre. C'est la lutte contre l'entrisme, c'est-à-dire c'est une forme de séparatisme,
qui ne dit pas son nom.
C'est-à-dire ce sont des personnes qui prônent l'application de la charia d'une façon ou d'une autre, mais qui s'intègrent dans le cadre du fonctionnement de nos institutions républicaines, de nos associations, et qui ne montrent pas leur vrai visage et qui, de manière très
sourde,
diffusent cette idéologie, cet islam politique. Et ça, c'est ce à quoi il faut que nous luttions. Alors évidemment, on a la loi séparatisme qui nous permet un certain nombre d'actions, mais nous sommes en train de travailler pour savoir si il ne faut pas aller plus loin et peut-être prévoir des mesures de nature législative pour mieux caractériser ce risque qui, en réalité, de manière sourde, sournoise, vous l'avez dit, mais porte atteinte finalement à la forme républicaine de nos institutions et au vivre ensemble au sein de la société française.
À quoi vous pensez, Laurent Nunez?
Les frères musulmans, vous l'avez dit, les frères musulmans, très directement, voilà, donc qui ont une stratégie, qui est une stratégie d'entrisme très forte dans les sociétés occidentales, de manière à un jour imposer la loi religieuse.
Ils n'ont pas renoncé à cet objectif-là?
Non, ils n'ont pas renoncé à cet objectif-là. On le voit autour d'un certain nombre de lieux de culte, d'un tissu associatif qui se met en place. On peut le voir aussi aux élections municipales.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Traditionnellement, la différence entre le séparatisme et l'entrisme, je vais illustrer concrètement le propos. Le séparatisme, on va plutôt constituer une liste, donc on va appeler une liste communautaire. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs aux dernières élections municipales dans certains quartiers. L'entrisme, c'est différent. L'entrisme, c'est vous placer un certain nombre d'individus, de femmes et d'hommes, sur des listes, des partis traditionnels, et qui en réalité œuvrent pour la cause des frères musulmans.
Et ça, pour vous, c'est une menace sur notre démocratie?
C'est une menace parce que ça porte atteinte au vivre ensemble. Vous savez, ce sont des gens qui prônent des règles qui ne sont pas tout à fait conformes au principe d'égalité homme-femme, qui peuvent parfois inciter à la haine, à la violence, et surtout qui remettent en cause le fonctionnement même de nos services publics en imposant des règles de fonctionnement qui leur conviennent, et donc c'est une difficulté. Et puis il y a beaucoup aussi d'atteinte en réalité au principe de laïcité. Et donc évidemment que nous y attelons déjà. Je tiens à dire que les préfets ferment déjà des lieux de culte. Vous savez ce qu'a fait le préfet Brugère dans les Hauts-de-Seine, mais d'autres préfets partout sur le territoire national ferment déjà des lieux de culte qui sont à la main des frères musulmans. Mais la question, et c'est la question que posait très précisément Michel Barnier hier au Premier ministre, c'est de savoir est-ce qu'il faut rehausser ou pas notre niveau de protection. La question, c'est est-ce qu'on aura une mesure législative ou pas. Tout ça est à l'étude.
Mais la réponse pour vous, en tout cas, c'est oui. C'est-à-dire que nous avons besoin, vous y êtes favorable, à une nouvelle loi qui renforce l'arsenal pour lutter contre cet entrisme.
Ou lutter contre l'islam politique. Attention, je ne veux pas que nos concitoyens, en ce jour anniversaire des 10 ans des terribles attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France, attention, cet islam politique, on ne s'inscrit pas, on n'est pas dans la radicalisation violente. Évidemment, ça peut mener à un certain nombre d'individus inspirant tout ça peuvent être allés sur la radique violente, mais là on est sur un sujet différent. Ce sont des atteintes à la cohésion nationale.
Atteintes à la cohésion nationale, à la démocratie, aux principes d'égalité homme-femme, comme vous disiez. Laurent Nunez, une question sur les refus d'obtempérer. Ils sont en hausse, plus 9% cette année, et il y a eu ces deux drames récents. Matisse, tué par un chauffard à Lille, un chauffard qui fuyait un contrôle de police. Et puis mardi à Tourcoing, un adolescent de 16 ans qui s'est tué à scooter en tentant lui aussi de fuir un contrôle de police. Au fond, on a le sentiment que certains chauffards ou jeunes ont plus peur, n'ont plus peur de la police, mais que finalement, désormais, c'est l'accident qu'il faut qu'ils craignent. Est-ce que le refus d'obtempérer n'est pas le symptôme d'une police qui n'arrive plus à imposer son autorité?
Non, je crois que le refus d'obtempérer, c'est surtout le symptôme d'une partie de la jeunesse qui ne respecte plus les règles, surtout, qui ne respecte plus les règles. Et la police, elle sera toujours là pour poursuivre ces personnes. Enfin, les refus d'obtempérer...
Elle ne se censure pas en se disant, si je fais un banal contrôle de police, il peut virer au drame?
Les refus d'obtempérer, nous demandons des instructions très claires là-dessus, qu'il y ait des prises en charge. C'est-à-dire, quand il y a un refus d'obtempérer, il y a une prise en charge de l'individu.
Ce que vous appelez une prise en charge, ça veut dire le suivant?
Une poursuite. Ouais, clairement, une poursuite. Bon, chaque fois qu'un individu refuse d'obtempérer, soit il n'a pas le permis, soit il n'a pas d'assurance, soit il a des stups sur lui, soit il a quelque chose à se reprocher.
C'est rarement bon signe, s'il s'en
fait. C'est rarement bon signe. Donc, il y a des prises en charge systématiques. La réponse des autorités, enfin, la réponse de la police et de la gendarmerie sera toujours une réponse de grande fermeté. Et voilà. Donc, les instructions, ce sont celles-là. Ensuite, évidemment, il y a aussi des règles de prudence qui s'imposent, de contacter la salle de commandement, d'éviter qu'il puisse y avoir, évidemment, un accident. Le but, c'est pas qu'il y ait un accident, mais en tout cas, il ne faut rien laisser passer en termes de refus d'obtempérer. Et vous avez raison de souligner que les refus d'obtempérer, l'année dernière, sur une année, c'est 24 900. Dont 20%, un cinquième, qui étaient des refus d'obtempérer, qui auraient pu entraîner des dommages très graves. Et certains ont entraîné des dommages très graves.
Mais on ne renonce pas.
Au jeune Matisse, qui aurait eu 20 ans le 5 novembre. Voilà, un jeune qui a été fauché, tué par une personne qui venait de procéder à un refus d'obtempérer.
Merci.
Mais on ne renoncera pas à la prise en charge. Je peux vous dire, c'est l'autorité.
On ne renoncera pas à les poursuivre s'il tente de fuir. Merci Laurent Nunez, donc ministre de l'Intérieur, d'avoir fait le point avec nous ce matin, notamment notamment sur la question de l'état de la menace et sur les relations avec l'Algérie. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut.
Eh oui, bonjour Apolline. On démarre par la COP30 où on nous annonce que c'est la toute dernière chance de sauver le climat, comme on nous le répète chaque année depuis 20 ans. Daniel Comandit, vous êtes sur place au Brésil, vous nous confirmez, Daniel ?
Non, écoute Thibaut. Non, je suis pas aussi catégorique que toi sur le réchauffement climatique. Pour l'instant, je vais te dire, les scientifiques se demandent juste si c'est vraiment foutu, complètement foutu ou alors totalement foutu. Tu vois, il y a de l'espoir.
Merci, cher Daniel Cohn-Bendit. Et puis aujourd'hui, 13 novembre, c'est le 10e anniversaire des attentats de Paris. On a appris que le terroriste Salah Abdeslam s'est dit prêt à rencontrer les victimes. Il ferait cette démarche pour leur exploser sa version des faits.
Merci Thibault. Laurent Nunez se félicitait à l'instant de la libération de Boualem Sansal et...
Qu'est-ce que chérie, excusez-moi, Apolline Faune Malherbe. Chérie, prends mon souffle. Ah, que c'est bon de rire.
Angela Merkel est avec nous, mais qu'est-ce qui vous fait autant rire?
C'est à cause de l'autre, là, le comique, et votre invité, Laurent Nunez. Il a joué avec vous, Nunez. Il m'a fait mourir avec son sketch. Je me félicite. Oui, on se félicite. Nous nous félicitons. Oh, il a conjugué le verbe félicite à tous les temps. Alors que c'est pas vous les fans soucis qui avez libéré les sans-sens. C'est nous. Vous, ça fait un an que les Tebboune, ils vous baladent. Nous, lundi soir, on appelle Tebboune. Allô, Tebboune, tu peux nous libérer les sans-sens. Mercredi soir, il était dehors. Vous êtes nuls. C'est comme si vous mangez un couscous algérien avec des baguettes aussi peu efficaces. Ça fait des baguettes.
Merci madame Merkel, vraiment.
C'est bon de rire.
Emmanuel Macron est avec nous aussi. Bonjour Emmanuel Macron. Monsieur le Président, vous êtes heureux, j'imagine, de la libération de Boualem Sansal.
Oui, bonjour madame de Malherbe. Écoutez, oui, c'est une, je vous le confirme, une excellente nouvelle.
C'est tout ?
Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je viens de vous le dire, c'est une excellente nouvelle pour notre compatriote.
Oh bah je vous imaginais plus enthousiaste quand même, monsieur le Président. Enfin, c'est quand même formidable ce qu'ont obtenu les Allemands.
Ah, voilà. C'est ça que vous vouliez préciser à tout prix, que ce sont bien les Allemands, voilà, qui ont obtenu la libération de Boualem Sansal. Ben oui, forcément, parce qu'eux, ils ont des avions. Hein. Nous, c'est vrai qu'en France, on a très peu d'industrie aéronautique. Mm. Hein, et quand bien même on aurait eu un avion qui marche, est-ce qu'on aurait eu assez d'essence, mettre l'argent pour mettre de l'essence dedans ? Pas sûr. Et puis c'est vrai que c'est normal qu'ils soient soignés aussi en Allemagne, hein, puisque nous, tout le monde le sait, à l'hôpital Pompidou, on a quoi ? On a juste une boîte de Doliprane pour soigner les Français.
Oh, c'est pas si mal, monsieur le Président, c'est la coopération européenne.
Oui, bien sûr, c'est la coopération. Non, moi j'appelle ça, madame de Malherbe, de l'humiliation. Mmh. Hein, vous voulez pas rajouter aussi que ma réforme des retraites a été supprimée
hier,
hein, hein, voilà, si que Bruno Le Maire aussi m'a refilé sa responsabilité sur la dette de 3500 milliards avec sa putain de lettre à la con, vous voulez pas dire ça aussi, hein. Vous voulez pas aussi rajouter que les agriculteurs, hein, me chient dessus depuis hier, hein, parce que j'ai osé dire que le Mercosur était peut-être un bon accord pour eux.
Je peux le dire.
Je vais vous dire une chose, madame de Malherbe. Hein, quelque part, j'ai envie que les Sarkozy, les Boualem Sansal, j'ai envie de faire comme eux, oui, d'aller en prison. Oui, oui, parce que vous voyez, il y a un avantage à la prison, une vertu, c'est qu'en prison, on me fout la paix.
Voilà, monsieur Macron. Bon, gracié donc officiellement, hein, par l'Algérie, Boualem Sansal retrouve la liberté. Nicolas Sarkozy, vous qui connaissez la difficulté d'être derrière les barreaux, ça doit vous réjouir.
Quelle indignité. Franchement, même Pujadas. Vraiment, ce qu'a fait l'Algérie, c'est scandaleux.
Oui, c'est vrai que Boualem Sansal a été injustement emprisonné après un procès politique.
Vous comprenez rien, décidément. Ah non. Mais non, mais ce qui est honteux, c'est de l'avoir libéré de prison alors que moi, je viens juste d'en sortir. Ah. Hein hein, franchement, les gens comparent. Forcément, il a fait un an. Moi, j'ai fait 20 jours. Je passe pourquoi, moi hein en plus, il est malin, Sansal, pour avoir une meilleure couverture médiatique et me voler la vedette, parce que c'est ça qu'il fait. Il sort quand? Comme les bonnes sorties cinéma, il sort un mercredi. Voilà. Voilà. Hein voilà. Hein non, mais quel manque de pudeur. Moi, vous l'avez remarqué, quand je sors de chez moi, je sors à pied, sobrement, avec ma petite dame à la main. Hein lui rentre comment? Il rentre chez lui, lui rentre carrément de jet privé. Hein alors si pour qu'on parle de vous, il faut faire tout cinéma, hein, se faire une queue de cheval comme M. Béliard ou comme M. Sansal, hein, et puis prendre un Falcon, mais j'aurais pris un Falcon pour aller du 14e au 16e arrondissement avec une petite escale par Berlin, voilà, c'est ça.
Voilà. Merci M. Sarkozy. Nadine Morano, un mot sur la libération de Boualem Sansal.
Non mais je suis, non mais franchement, mais c'est deux, mais non mais c'est deux poids de masure, franchement. Mais oui, il a volé son, monsieur Sansal, pardon, a volé la vedette à mon Nicolas. Ah hein, oui. Vous avez vu quand ils ont annoncé sa libération à Boualem Sansal à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les députés, bien sûr, debout à l'applaudir. Moi, Nicolas, en prisonnier politique, quand il a été libéré, eh ben, il y en a que trois qui se sont levés. Oh. Hein, deux pour aller aux toilettes, un pour aller à la buvette. Oh hein, des députés. Je sais, je vois très bien le petit jeu, ça nous pendait, je vois comment ça va finir, bien sûr. Hein, bientôt, les gens vont dire que Boualem Sansal est un plus grand écrivain que Nicolas Sarkozy. Mais oui, alors que pourtant Nicolas, il écrivait bon, plein de livres.
Arrêtez, chacun son métier quand même. Nadine Morano, Boualem Sansal est très malade. En plus, il a fait de l'hypertension, il a écrit.
Mais justement, s'il faisait de l'hypertension, il y a un régime qui marche très bien. C'est le régime Sansal. Ah. Oui, mais écoutez, il y en a qui mangent des yaourts. Moi, je mange des carambars. Voilà, chacun son truc.
C'est de l'orbar. Merci. Merci Nicolas Cantelou, face à Cantelou. On retrouve dès demain 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast bien sûr. Dans un instant, les GG, Alain est en train de rentrer dans ce studio. Alain, c'est quoi le programme?
Nous recevrons quelqu'un que Nicolas Cantelou aime bien, parce que c'est François Ruffin qui sera tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules exactement, pour reparler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, la réforme des retraites. Et puis nous avons Bruno Poncet, nous dans les grandes gueules. Bruno Poncet qui est un rescapé du Bataclan. Et c'est son témoignage qu'on écoutera bien évidemment à partir de 9h.